Salut à toutes et à tous, bienvenue dans Fin du Game, l'émission qui va au bout des jeux. Moi, c'est Hugo, je suis avec Exerve.
Salut.
Et je suis aussi avec Maxime.
Salut.
Comment ça va, messieurs ?
Ça va très très bien, je suis devant mon microphone avec chaussettes intégrées.
Oui, c'est vrai parfait. qu'on a changé un peu la technologie pour cet épisode, on tente des choses.
Ah bah là, on est dans le futur. Hein.
Je sais pas si on a... Non, on n'a pas de photos de ça, il faut quand même en garder une.
Il y en a une sur le Twitter, mais c'est pas forcément très visible. J'essaierai de vous montrer une photo peut-être plus explicite du
setup. On la donnera sur le Discord, donc
en
si
exclusivité.
Vous voulez avoir exactement exclu Discord, on a touché énormément d'argent.
Je vais la prendre maintenant.
Donc si jamais vous voulez voir cette photo du magnifique microphone de Benoît avec sa magnifique chaussette,
Au stade où on fait des photos pendant le podcast.
C'est vraiment pas sérieux. Je vais le poster pendant l'enregistrement. Là, c'est complètement, on est dedans.
Donc, ouais, okay. Rejoignez-nous sur le Discord pour voir ça tout de suite. Non, c'est trop tard. Ça sera posté depuis quelques jours. Quand vous écoutez.
Non, c'est vrai qu'il ne reste plus qu'à faire des émissions en live maintenant.
Ouais, on va voir.
On y
ça.
Réfléchit peut-être pour plus tard.
Ah voilà. Il faudra peut-être donner des sous au Patreon. Oui, on remercie évidemment donc nos patriotes qui nous aident à financer l'émission. Il y a toujours plus de monde qui nous rejoint ces derniers temps, donc ça fait super plaisir. On espère qu'on va pouvoir atteindre un jour le fameux objectif des $600 par épisode pour faire peut-être Nier Automata.
C'est vraiment notre otage.
Il faudra trouver d'autres parce que le jour où il sera
le jour va y arriver.
Il y aura plus de levier.
Les gens ne donneront plus rien. On aura zéro sur le passé.
C'est ce qu'on appelle la technique Square Enix. Tu annonces FF7 Remake et derrière, t'as plus jamais rien. T'as plus jamais de levier, t'as plus rien à annoncer. C'est dommage.
On remercie également notre sponsor, Thor d'édition, donc la maison d'édition spécialisée dans les ouvrages consacrés aux jeux vidéo.
Mais pas que.
Mais j'avais pas envie de le faire cette fois-ci.
Allez,
c'est pour surprendre un petit peu.
Ouais.
Mais le bouquin Devolver qui va sortir là dans quelques jours. Devolver, le fameux label indépendant. Je me disais d'ailleurs, on n'a pas encore fait de jeu publié par Devolver et c'est assez étonnant parce que c'est quand même.
Red Strings Club, je crois que c'est Devolver.
Ouais, c'est Devolver, voilà, mais c'est pas forcément des jeux à grosse proportion narrative, tu vois. Je pense que Hotline Miami, ça serait intéressant d'en parler.
On pourrait les faire.
Mais, parce qu'on aurait des choses sûrement à raconter. Mais par exemple, raconter l'histoire de Hotline Miami, ça se fait pas. Ouais. À jeun, c'est difficile.
Écoute, aujourd'hui, on va faire Doom.
Ouais.
Donc après, c'est tout possible.
Et ben voilà, c'est bon.
On
va mettre en place les premières marches qui vont nous permettre un jour de parler de Hotline Miami.
Voilà, donc si vous voulez suivre Thor d'édition, vous pouvez les retrouver sur Twitter. Je pense que la date de sortie, je sais pas si elle a déjà été donnée, la date de sortie.
Je pense, mais
voilà, allez
sur leur site, comme ça vous avez toutes les infos. Et puis nous, on a fait le tour, ça y est, intro, ça y est, c'est plié.
Là,
on peut commencer
bien,
à parler
de
jeux
la
vidéo.
Bonne musique.
De la bonne musique. C'est pas trop macabre, le mec chiant lit. Et donc, Maxime va nous envoyer probablement des petites guitares un peu sèches.
Sans doute.
Une petite guitare un peu sèche, des petits.
Un petit banjo. Un petit banjo.
Du ukulélé.
Un petit banjo.
Et donc, bienvenue dans Outer Wilds.
Ah, ça tease, peut-être 2020, RDV peut-être, on ne sait pas. Bon, c'est vraiment pas sérieux cette intro, ça parle dans tous les sens. On va pouvoir commencer à parler de Doom juste après l'intro. C'est parti pour un nouvel épisode de Fin du Game. Doom 2016, oui, donc le reboot qui est sorti en mai 2016, il me semble que c'était le 13 mai, quelque chose comme ça. Mais c'est donc on parle d'un reboot, je crois pas qu'ils avaient communiqué vraiment dessus comme étant un reboot, mais c'est de toute façon un renvoi quand même au premier Doom qui lui est sorti en 93. Petit jeu, est-ce que tu peux nous dire, Benoît, est-ce que c'est un jeu important ?
Je me déguise en papy grenier, là, instantanément.
C'est quoi Doom ? Mais je connais pas.
Écoutez, les enfants, Doom, c'est un FPS, un first person shooter. Je suis même pas sûr, d'ailleurs, on disait pas encore ça.
C'est un terme
qui n'existait pas encore à l'époque. Hein, pendant très longtemps, on appelait les jeux de ce style des Doom-like, tout simplement. Donc c'est sorti en 93, c'est un jeu d'id Software, on dit pas ID Software, on dit id Software. Il y a des ninjas, sinon, qui apparaissent instantanément. si vous voulez connaître toute l'histoire de Doom, il y a un excellent bouquin de David Kushner qui s'appelle Masters of Doom. Je ne crois pas qu'il soit édité en français, mais bon, il est trouvable en anglais assez facilement. C'est vraiment la genèse des deux hommes clés d'id Software, donc évidemment John Carmack, qui est patron jusqu'en 2013, si je dis pas de bêtises, ou maintenant il est chez Oculus, rien à voir, et le légendaire John Romero, le seul, l'unique, l'homme aux cheveux longs, qui est un peu, voilà, ça fait partie de ses personnalités, tu vois, très rigolotes du jeu vidéo, parce qu'il a fait un truc qui est exceptionnel, puis après il a rien fait de bien, et il s'enfonce petit à petit. Son dernier truc, je sais plus ce que c'est, il avait présenté un jeu avec sa femme, mais ça avait pas l'air fifou.
C'est Empire of Sin, je crois.
Oui, c'est ça, ouais.
Et c'est, oui, c'est sa femme qui est vraiment, oui, c'est un XCOM dans la prohibition, quoi.
Voilà, ouais, genre Mafia XCOM. C'est pour toi, ça. La drogue, la prohibition, Al Capone.
C'est ma cam, effectivement.
Non, mais le pire, c'est que vraiment, à cette époque-là, il n'y avait pas que eux. Parce que tu vois, du coup, il y a American McGee qui bossait également à l'époque. Donc, c'est le type qui a fait les jeux Alice. Et il y a également Sandy Peterson qui est très connu parce que il a bossé chez Chaosium. Et c'est un des gars à l'origine de Call of Cthulhu, le jeu de la première édition, en tout cas, du jeu Cthulhu.
Jeu de rôle traditionnel.
Parce qu'en anglais, on dit tabletop, mais on n'a pas vraiment de terme en français. Donc voilà, c'est pas n'importe qui les gens qui ont fait ça. C'est évidemment un jeu qui a marqué toute son époque. Ce qui est rigolo, c'est que c'était distribué en shareware. Est-ce que vous savez ce que c'est un shareware, les enfants?
Dis-nous, raconte-nous
une histoire, allez. J'aime bien quand vous faites comme ça, c'est sympa.
Refais le bruit du téléphone quand on est sur Internet.
Mais voilà, du coup, c'était effectivement pas vendu. En fait, tu pouvais jouer à quelques niveaux et après, il fallait que tu envoies un chèque ou de l'argent par la poste pour récupérer le jeu complet. Donc, c'était quand même assez particulier. Et bon, voilà, c'est Doom, quoi. Je veux dire, ça a défini tout le genre du FPS. À l'époque, il n'y avait pas encore la visée. C'est arrivé avec Quake, ce qu'on appelait le free look pour de vrai.
Mais oui, on pouvait Software, pas regarder juste en haut ou en bas, c'était la
alors, souris. Tu pouvais, mais c'était après la galère pour recentrer la vue, et en gros, les armes tiraient automatiquement dans la direction globale dans laquelle tu regardais les ennemis.
Il fallait s'aligner vraiment en bougeant plus qu'autre chose la croix avec l'ennemi, et s'il était au-dessus ou en dessous de la croix, c'est bon, le tir passait quand même.
Il y avait une espèce d'axe vertical.
Il y avait une croix?
Il me semble que oui, quand même. Oui,
je suis même pas sûr qu'il y ait une croix serre. Tu vois, j'ai un doute là.
Moi, je dis oui, et il y a deux, a priori, non.
Ouais. Mais voilà quoi dire de plus. On peut parler un petit peu de l'évolution du FPS, parce qu'on va en parler forcément dans l'épisode.
Aujourd'hui, c'est ce qu'on appelle le fast FPS, les jeux comme ça, parce que il y avait cette espèce de vitesse d'action qui était encore plus rapide. Donc dans Quake, avec tous les mouvements qu'on pouvait créer, parce que ça sautait dans tous les sens, les bumpers, les machins. C'est ça le fast FPS qui s'est imposé vraiment dans les années 90.
Ouais, c'est vraiment la fin des années 90. De toute façon, il y avait Unreal Tournament, il y avait Quake 3 Arena. C'est les deux gros jeux multi qui trônait dans toutes les salles réseau à l'époque. Comme tu le dis, il y avait toutes ces idées de mouvement, ce qu'on appelait le rocket jump qui arrivait avec Quake, où en gros quand tu avec le souffle de l'explosion d'une roquette, ça te faisait aller plus loin. Il y avait le bunny hopping qui te permettait de faire des sauts en diagonale et qui te permettait de gagner de la vitesse. Donc plus tu le faisais, plus tu te déplaçais vite. Et ça a donné des jeux qui sont devenus extrêmement difficiles. Je pense que tu joues contre quelqu'un qui était à peu près correct à Doom, à Quake 3 Arena ou à UT, tu te faisais défoncer. Et petit à petit, on a vu arriver d'autres jeux. Alors évidemment, ça c'est l'école Maxime, puisque le FPS a changé de visage avec Half-Life.
Ouais, déjà à côté, t'avais quand même, juste pour repréciser un peu l'époque, t'avais quand même quelques immersive sims à la première personne, genre System Shock, le premier, il me semble que c'est 94, si je dis pas de bêtises. Donc t'avais un peu une autre école de jeu avec du tir à la première personne. Mais ouais, en 98, t'as Half-Life, qui lui a vraiment bousculé les codes, en fait, où, comme vous le disiez à l'époque, c'est plutôt Quake. Et là, tout de suite, Half-Life a mis beaucoup plus de... Alors, ça veut rien dire, mais de narration dans son jeu, avec de l'exposition. T'as la fameuse scène du début où t'es dans un tram et il se passe rien pendant 5 minutes. Beaucoup de scènes scriptées où tu vas assister à des personnages qui parlent entre eux, des monstres qui vont tuer des PNJ. Bref, un gros travail qui est mis sur l'histoire et sur l'ambiance, même si ça reste quand même un shooter, tu vois. Il n'y a pas de mécanique de RPG, il n'y a pas énormément d'histoire, il n'y a pas de quête annexe ou quoi.
Il n'y a pas les trois arbres de talent.
Ouais, c'est ça. Et ça, quand c'est arrivé, ça a vraiment bousculé les codes du FPS. Et en fait, on voit qu'à partir des années 2000, le FPS va plutôt aller dans l'ambiance, en fait, dans le ressenti. Bon, il y a eu évidemment toute la mouvance Medal of Honor, Call of Duty, Battlefield, et là c'était vraiment on va faire la guerre à la première personne.
Depuis 99, Bon, peut-être que ça s'est un peu calmé ces derniers temps, mais ouais, pendant 10, allez, 10, presque 10-15 ans, c'était vraiment les FPS militaires, ouais. Call of Duty.
Ouais, c'est ça. C'est à l'époque Call of Duty, Medal of Honor, Soldier of Fortune, il y a eu Arma, il y a eu Opération Flashpoint, c'était vraiment les simulations militaires qui existent encore avec Arma, qui a donné DayZ, etc. Il y a eu Counter-Strike, qui est peut-être un des derniers survivants de cette époque-là, parce que c'était un mode de Half-Life qui existe encore, et sinon, comme vous disiez, c'était Half-Life. Life. En fait, on a eu une espèce de ressursaut de bourrinage avec Gears of War sur la Xbox 360. Vous n'êtes pas d'accord. Pour moi, je trouve que ça rappelle un petit peu du Doom dans le côté tronçonneuse, tu découpes des mecs. Ouais. C'est bourrin. Évidemment, c'était du TPS, mais c'est ça. Et sinon, le FPS, jusqu'à il y a très peu de temps, 2016, ça restait effectivement des jeux sérieux, avec de la visée, avec très peu d'armes. Et toutes les règles qui avaient été mises en place à l'époque dans Doom avaient disparu, jusqu'à ce fameux reboot qui a prouvé que... On pouvait, alors après, on a prévu toute la liste des formules. C'était dans les vieux pots qu'on faisait les meilleures soupes. Et je vous laisserai.
Et modernité.
Voilà, tout ça.
Mais du coup, ouais, tu parles du reboot parce que Doom, en fait, il y a eu Doom 3 qui est sorti en 2004. Et la même année qu'Half-Life 2. Ouais. Et là, on a vu clairement que c'était pas.
Il jouait pas dans la même.
Malheureusement, cours, hein. c'est pas du tout la même. On a retenu un plus que l'autre. même si Doom 3 s'était déjà engouffré dans toute cette partie narrative, entre guillemets, dans Doom 3 au début, on ne se bat pas, c'est vraiment de l'exposition, on arrive sur Mars, on va visiter un petit peu la base, on nous
explique
ce qui se passe.
Et puis t'avais toute l'ambiance avec le cône de lumière qui était en permanence très resserré.
Ils ont essayé de s'engouffrer dedans, ça n'a pas marché, et quand ils en parlent, tu vois, ils disent que techniquement, ils ont fait beaucoup de boulot d'optimisation sur la lumière, le sound design et tout, mais en fait, ça paraît tellement superficiel quand à côté de ça, t'as un Half-Life 2 avec son moteur physique qui était au centre de l'expérience. Doom 3 n'a pas très bien marché, il n'a pas marqué en fait, il n'a pas marqué son époque, et après ils ont voulu faire donc Doom 4 pendant assez longtemps, et c'est un projet qui a été hyper compliqué en fait, ils ont fini par l'annuler, et c'était un projet qui devait être aussi très narratif avec beaucoup d'exposition. Ils le disent, il y avait beaucoup de production value. Eux, l'idée, c'était vraiment la Terre qui était envahie par les démons, et ils voulaient raconter des histoires, développer des personnages, et à la fin, finalement, le projet a été kill, parce que c'était pas Doom. Ils se sont dit, après tant d'années, ils se sont dit,
sachant qu'il y a eu Rage, quand même, qui est sorti en 2011, donc 6 ans après Doom 3.
Qui, lui, pour le coup, était finalement assez proche dans l'esprit. Il y avait le côté monde ouvert avec les véhicules, mais on était quand même dans un jeu qui se voulait assez rapide, assez bourrin, t'étais pas obligé d'utiliser l'Iron Sight pour pouvoir viser, tu pouvais tirer au jugé.
Ouais. Les ennemis se mettaient quand même à couvert,
oui,
t'avais de la prise de position.
Tu sentais qu'il y avait une espèce d'entre-deux au niveau de ce qu'ils essayaient de faire. Et après, id Software, ils ont vraiment galéré. Donc, ils ont été rachetés par ZeniMax, donc la compagnie qui gère Bethesda, en 2012-13, je sais plus. Enfin, bon, c'est à ce moment-là où il y a eu les problèmes aussi avec Carmack quand il est parti. Après, il y a eu les poursuites avec Oculus. Bon, ça, c'est leurs histoires entre eux. Et le projet de Doom, en fait, c'est un projet qui a tellement été galère pour eux. Ils ont été obligés de relancer complètement le projet. Tu vois, comme on le sait par exemple pour Blizzard avec Diablo 4 qui sera bientôt annoncé, et du coup ils sont repartis de zéro, et en fait ce qui est intéressant, c'est qu'ils ont finalement réussi à revenir aux racines de la série sans pour autant simplement faire un hommage, comme on l'a vu, on en parlait tout à l'heure là dans la présentation. C'est vrai que depuis ces dernières années, avec l'évolution des jeux indépendants, des jeux qui ont voulu refaire Doom, il y en a finalement eu beaucoup de FPS. Moi, le plus récent qui me revient en tête, qui est très sympa, ça s'appelle Project Warlock, qui lui mélange roguelite et vieux Doom avec plein de petits niveaux. Et c'est vrai que c'est du Castle Wolfenstein, c'est du Doom, c'est du Hexen, ça reprend toute cette époque là ou du Duke Nukem même, d'ailleurs, parce qu'on en a pas parlé, mais il y avait Duke Nukem, Duke Nukem Forever.
Mon père jouait à Duke Nukem 3D, je m'en souviens très bien, où tu sais, il y avait des remarques un peu très très sexistes, tu sais, où il voyait des meufs, et shake it baby, des trucs comme ça.
C'est l'identité de Duke Nukem.
C'était vraiment
c'était
ça, beauf, hein,
le beauf, gros beauf, jeu.
C'était Duke Nukem, hein. D'ailleurs, c'est pour ça que, enfin, on pourrait limite un jour, faudrait faire des épisodes comme ça pour parler de Duke Nukem Forever, parce que c'était tellement n'importe quoi, cette histoire-là. Bref, Doom, pour le coup, ça a été très bien, ça n'a pas fait un gros flop.
Il y a eu quand même, donc tu le disais, cette espèce de crise créative un petit peu, parce que le jeu est passé vraiment par différentes étapes, et comme tu le disais, d'abord quelque chose de très narratif, puis ils ont réussi à trouver un petit peu leur identité en revenant un peu aux sources. Et ouais, ça a quand même plutôt bien marché. Ça n'a pas non plus été le critical acclaim, quoi. Sur Metacritic, t'avais regardé, toi, Max, c'était combien? C'était 85.
85,
donc,
oui.
C'est pas dégueu du tout, mais voilà, on n'est pas dans les 90. C'est pas un jeu non plus qui a complètement explosé. Ça s'est bien vendu, je crois. Il a même été porté sur Switch.
Avec un portage incroyable. Si vous voulez voir ce que la Switch a dans les pattes, je pense que Doom, c'est le meilleur exemple. Hein. Pardon, le portage est vraiment très bon. Le jeu, il est très jouable. Et de toute façon, Lead Tech 5, là, leur moteur qu'ils mettent en avant depuis Rage, etc., c'est un moteur qui est connu justement pour son optimisation. Rage, c'était un jeu qui tournait à 60 images par seconde sur 360 et sur PlayStation 3, qui était mémoire un miracle à l'époque.
Ce qui est déjà rare sur PS4.
Ouais, déjà sur Play 3, les jeux qui tournaient à 30 images par seconde, on était déjà contents. Donc là, 60, c'était un peu incroyable. Et du coup, ils sont vraiment très forts là-dessus sur le côté opti. Et bah, on l'a vu, la version Switch de Doom, c'est un petit miracle. Et du coup, bah, évidemment, la suite sortira également dessus. Doom Eternal a été annoncé.
Ah ouais, c'était annoncé.
Il me semble qu'il a été annoncé sur Switch, non ? Il me semblait qu'il avait été annoncé sur toutes ces genres. C'est parti, frigo, grippin.
Mais il y a pas mal de jeux id et parce que les Wolfenstein aussi sont portés sur Switch, si je dis pas de bêtises.
Skyrim est sorti sur Switch aussi.
Ouais, parce que alors c'est pas id qui a développé Wolfenstein. À l'époque, c'était eux qui l'avaient créé, mais la licence est passée à deux studios de Bethesda. Mais il y a peut-être eu un petit un peu de sous-traitance, un peu d'aide de la part de id qui effectivement sont connus pour être des gros techos dans le milieu.
Et comme d'habitude, avant de rentrer vraiment dans le game design, on va passer sur l'histoire de Doom. On le disait en intro, c'est possible, on peut le faire, on peut faire l'histoire
on
de Doom.
On vous a prévu un petit cours magistral de 2h40, animé par Hugo, en personne.
Non mais c'était, moi, Doom, j'en gardais quand même un souvenir assez humoristique finalement de toute cette histoire, mais ils ont quand même fait un certain travail finalement sur l'écriture. Alors déjà, il y a l'histoire du Doom Guy qui est assez drôle. Pendant le jeu, en fait, on peut se balader dans l'enfer et on peut croiser des espèces de stèles qui parlent comme ça, qui nous racontent une histoire. Et en fait, elle nous raconte, c'est Maxime qui l'avait fait quand on préparait, j'avais trouvé ça vraiment très rigolo, donc je lui pique.
Mais c'est vraiment ça, hein,
oui, c'est vraiment donné comme ça, d'ailleurs. Quand je l'ai re-regardé sur YouTube, j'ai enlevé le son parce que ça me saoulait, je voulais juste lire tout ce qu'il racontait. Mais ce qui est marrant, c'est qu'en fait, avant donc tous les événements du jeu, il nous raconte l'histoire du Doomslayer, donc qui est une espèce en fait de croque-mitaine, c'est le grand méchant dans les enfers, c'est-à-dire que c'est le truc que t'as pas envie de croiser, c'est le loup-garou des enfers, puisque partout où il passe, il massacre tous les démons. On raconte ça aux petits démons quand ils grandissent, Obi-Bron leur dit, fais attention, si jamais tu le croises, bah ça va être la merde. Donc
si t'es sage, il y aura le Doomguy qui va venir te manger et tout.
Ouais, c'est, bah justement, si t'es pas sage surtout, mais...
Ah non, c'est des démons, et ouais, bien sûr.
D'accord, ok, c'est bon, on a compris.
Ça devient compliqué.
Et donc, il y a toute cette histoire autour de cette espèce de mythe, quoi, cette espèce de cavalier de l'apocalypse mais en enfer, et au final bah, on se rend compte qu'ils ont essayé de le combattre et tout, mais ils ont fini par l'enfermer dans une espèce de sarcophage. Et en fait, ce sarcophage, il a été récupéré je ne sais pas combien d'années après, parce que le jeu se passe au 22e siècle, alors c'est 2139 ou je sais plus combien. Et en fait, on nous parle donc de cette entreprise qui s'appelle l'UAC, alors je sais plus trop ce que ça veut dire, mais voilà, c'est Google, quoi. Enfin c'est une grosse boîte comme ça, j'en cite 3 pour le CSA maintenant qu'on est tout en haut de Spotify.
C'est vrai, oui, on est obligé. Ouais,
donc Apple et puis Amazon. Et c'est une méga corporation qui en fait est sur Mars, et sur Mars ils sont en train d'extraire une espèce de source qui s'appelle l'énergie argent. Ça, c'est une espèce d'énergie dont maintenant toute notre civilisation est dépendante, donc ils ont une place un peu monopolistique. Mais ce que l'humanité ne sait pas, c'est que l'extraction ne se fait pas en fait vraiment de Mars, elle se fait dans une brèche qui est sur Mars mais qui donne sur les enfers, et c'est donc des enfers qui puisent toute cette énergie. Et l'histoire se passe en fait au moment où une des chercheuses de l'UAC qui s'appelle Olivia Pierce a été un peu séduite par l'énergie démoniaque et a décidé de créer une brèche pour pouvoir s'approprier toute cette énergie. Et ça a créé donc un petit peu une espèce de chaos dans la station sur Mars, et la station s'est fait envahir par les démons. Et du coup, le CEO du Google local, ou Amazon ou Apple, a décidé justement d'ouvrir le sarcophage pour lâcher le Kraken et donc se débarrasser de tous les démons qui ont envahi la station.
Ça me rappelle un peu, en plus le début, tu sais, ça me fait penser à Breath of the Wild un peu, hein. Tu sors de ton sarcophage comme ça après un long sommeil.
Mais oui,
Link,
Link, ah oui, sauf qu'il se réveille pas du tout avec la même humeur.
Mais Doomguy, hein, voilà, il est
un peu plus énervé sur le.
Link levé du pied gauche.
C'est Dark Exactement. Link.
Bah, c'est vrai qu'il y a quand même cette séquence d'intro, elle est assez incroyable quand même, où on se réveille, il y a un espèce de mort-vivant qui s'accroche, bim, on casse les chaînes, on lui prend la tête, hop, on lui éclate sur le bord du cercueil, du sarcophage, et on se lève, et après on va péter l'écran, Samuel a dit.
Direct, on ramasse un flingue aussi,
oui,
ça c'est important.
C'est tout de suite,
fait.
C'est vrai que c'est un jeu qui rentre vraiment direct dans le vif du sujet. Il y a la scène d'exposition, c'est le flingue en fait. C'est ça l'exposition, c'est tuer les démons.
Ouais, ouais. Et juste plus tard, il y a une espèce de gros iPad qui apparaît et qui peut t'aider pour enseigner. Donc il y a une petite hologramme qui apparaît. Et évidemment, au bout de deux secondes, il met un énorme coup de latte dedans en disant on en a rien à foutre de l'histoire. Du coup, c'est pour ça, moi je suis surpris parce que bah, je me suis dit il a raison. Moi j'en ai rien à foutre de l'histoire de Doom. Et quand j'ai entendu Hugo nous parler de tout ça en préparation, j'étais là, ah oui, mais il y a en fait un vrai univers derrière. Ils se sont pas juste dit bah on met des démons, Mars, et puis c'est parti.
En
quoi.
Fait, l'histoire en elle-même, elle est assez bateau, elle est pas très intéressante parce que bah voilà, on va nettoyer toute cette espèce de station, on va aller faire un aller-retour en enfer, défoncer encore des monstres, revenir sur la station sur Mars, repartir en enfer, revenir encore, et voilà, on solutionne pas vraiment le problème, puisque bah, là, Olivia Pierce, en fait, elle se transforme en espèce de maxi-monstre à la fin, c'est l'espèce de boss final, et on la tue, et on se rend compte que Samuel Hayden, oh là là, il s'en foutait de tous les démons, lui, ce qu'il veut continuer à faire, c'est pomper de l'énergie et faire du bif, parce qu'il y a que ça qui compte, que du bif, que du bif,
Salut,
que du bif.
Salut, Veolia.
Et au final, il nous laisse enfermés dans une espèce de capsule temporelle. Je sais pas trop ce qui se passe. Je me souviens même plus trop dans quoi on est enfermé à la fin. Mais de toute façon, on sait maintenant avec
Cliffhanger,
on sait que maintenant dans Doom Eternal, c'est le monde entier qui est envahi. Donc finalement, on n'a pas résolu grand chose, si ce n'est qu'on allait récupérer une espèce de clé qui donne plus de puissance, pardon, à Samuel Hayden. Donc voilà, effectivement, l'histoire, elle est un peu nanardeste, elle est un peu série B. Vraiment, le scénario est pas très intéressant, mais ils ont réussi à trouver une espèce de tonalité un peu particulière qui fait que bah, le jeu est, c'est toi qui le disais en préparation, auto-réflexif.
Oui.
Sur tout son univers et tout ce qu'il peut raconter en fait.
Bah, c'est ça qui est intéressant, c'est qu'en fait ils ont tout le travail qu'ils ont fait d'archéologie, vraiment d'essayer d'extraire non pas l'énergie argent mais l'essence de ce qu'était Doom, c'est aussi passé par une espèce de compréhension de la narration et de l'univers, et donc bah, ils ont regardé un petit peu ce qui faisait de la série Doom un truc un peu cliché avec le temps, parce que forcément bah, je veux dire dans les années 90 c'était vraiment les trucs les plus basiques, tu voyais il y avait des pentagrammes partout, il y avait des trucs avec des flammes, il y avait des crânes qui brûlaient et qui t'envoyaient des boules de feu, c'était vraiment toute une imagerie.
C'était des métalleux, quoi.
Ouais, ouais, tu vois, c'était vraiment, tu vois, tout l'univers, c'est ça. Tu voyais n'importe quelle pochette de métal, tu vois, de petits groupes amateurs, bah, a priori, ça reprenait des images de Doom, ça aurait pu contenir.
Iron Maiden ou tous les.
Oui, il y a plein de trucs, c'était. Enfin, voilà, toute cette iconographie se retrouvait là-dedans. D'ailleurs, c'est pour ça, quand il y avait le jeu Brutal Legend, tu vois, de Double Fine, il y avait beaucoup de petites références à cette époque-là. Mais ils ont pris tout ça, ils ont essayé tout simplement de se dire, ben. On va pas prendre ça au sérieux comme d'autres l'ont fait avant eux parce que ça marche jamais. On va plutôt en s'en moquer, en rigoler, faire en sorte que notre personnage il ait un petit peu d'autodérision en se disant bah on s'en fout de l'histoire, on passe à autre chose. Ils l'ont quand même mis derrière et j'ai trouvé que ça donnait vraiment finalement quelque chose de beaucoup plus juste parce que je trouve ça intéressant quand les jeux ils savent que bah c'était bas de plafond, c'était beauf, c'était un peu bidon et plutôt que de se prendre au sérieux en essayant de refaire les mêmes blagues vaseuses qu'il y a 20 ans tu vois comme dans Duke Nukem, ils se sont dit bah non on va simplement en fait retourner un peu le truc. Se moquer un peu de tout ça et prendre un peu de recul, et ça marche finalement très très bien.
Oui, et puis c'est surtout que c'est bien fait parce que c'est pas seulement genre ça devient du second degré donc c'est bon, c'est pas ça, c'est qu'il y a une vraie maîtrise. Enfin, cette espèce de petit conte du croque-mitaine, de l'espèce de Doomslayer, on veut te faire incarner toute façon un truc qui a une espèce d'appétit irascible pour la destruction, donc il faut vraiment que tu incarnes cette espèce de créature qui est là pour taper du démon, mais c'est bon enfant entre guillemets quoi.
Bah, y a eu toute une réflexion derrière en fait, et c'est aussi le résultat de ce qu'on disait tout à l'heure, il y a eu cette crise d'identité, donc elle est autant sur le gameplay que vraiment sur la narration et la façon de transmettre des choses. Et il y a eu, au début, ils se sont vraiment cassés la tête là-dessus sur la relation aux démons, tu vois. Ouais. Ils voulaient faire des scènes d'exposition, montrer que ça vient petit à petit. Comment on sait que c'est des démons? Est-ce que c'est un truc un peu occulte? Et quand on gratte la surface, on voit qu'il y a... Et à un moment, ils disaient, non mais c'est chiant, tu vois, il faut qu'on comprenne très vite... c'est des méchants, nous on est juste là pour les défoncer, on va faire un truc bien rythmé, on veut juste tabasser des démons, et en fait la meilleure façon de le faire c'est juste on l'assume dès le début, et on va juste dire voilà, nous comme tu disais on est le croque-mitaine, eux c'est les petits démons, on va les tabasser, et cette fameuse intro, en fait très rapidement on fonce dedans, on ramasse le flingue, on tire, c'est parti, on voit qu'il y a un écran où le jeu il veut nous parler, là il balance le truc par terre, là c'est clairement le jeu qui te dit on s'en fout, on est là pour flinguer des trucs. Et il disait que c'était Hugo Martin qui disait ça, qui est le creative director, qui lui vient en plus un peu du cinéma, donc il passait par Naughty Dog, qui eux ont des grosses influences de ce milieu, et il avait bossé un peu sur le film Pacific Rim. Et il disait qu'en fait, t'as des gens qui l'ont pris un peu au premier degré au début, parce que t'es effectivement dans ce sarcophage, il y a des bougies au sol et tout, puis t'as des gens qui levaient un peu les yeux au ciel. T'as des écrans avec marqué quand même « Demonic Invasion in Progress
oui, »,
genre c'est officiel, genre dans les ordis,
non, oui, c'est prévu.
Tu sais, ils ont leur protocole, etc. Oui, c'est ça. Genre, alors, en cas d'invasion de démons, suivez la ligne rouge.
Et plutôt, en fait, de se dire bah, en fait, on va révéler les mystères de la boîte, ils se sont dit, mais en fait, c'est assumé depuis le début. Et comme disait Hugo, dans l'histoire, il y a Olivia et tout qui est manipulée un peu par les enfers, et en fait la boîte a complètement assumé ça, et ça transpire dans tous les environnements où quand t'arrives t'as un hologramme qui est vraiment, alors je sais plus exactement, mais c'est vraiment en mode, oui alors le jeudi dans salle D302 il y aura les sacrifices et c'est complètement, tu sais t'arrives dedans mais c'est drôle en fait.
En fait c'est à dire qu'ils ont intégré cette espèce de religion occulte à leur culture d'entreprise de l'UAC, et du coup ça donne quelque chose d'effectivement qui est assez croustillant, parce que bon, dans toutes ces grosses boîtes, on les connaît, il y a une grosse culture d'entreprise qui est parfois un peu, tu sais, où on est un peu asservi justement à la boîte, la grosse corporation, c'est un peu presque religieux, tu vois, le rapport qu'on peut avoir, je sais pas, avec Apple ou un truc comme ça. Et ce qui est marrant, c'est que nous, en plus, on incarne une espèce d'électron libre, d'agent de la destruction, qui, à chaque fois qu'on nous dit, alors, tu sais, il y a un moment qui est quand même très drôle, il dit, alors là, vous pouvez retirer la petite loupiote pour désactiver le truc, et il met un gros coup de poing dedans pour le défoncer, genre, je m'en bats les reins. Et c'est vrai que c'est encore plus jouissif, je trouve, d'incarner cette espèce d'agent de la destruction dans cette espèce de truc très organisé où c'est déjà le bordel, mais c'est nous encore, on rajoute une espèce de couche de chaos par-dessus qui est très amusante. Quoi.
Et ça reprend en fait un peu la construction des personnages, tu sais, qu'on avait dans GTA V avec la construction de Trevor, en fait, qui est un personnage qui est construit par rapport aux actions des joueurs. Hein, tu vois, ils ont fait un mix de toutes les actions des joueurs, et les joueurs dans GTA ils font n'importe quoi, donc Trevor fait n'importe quoi. Et donc, du coup, le Doomguy, ils se sont dit, bah, on fait un gars, il faut qu'on incarne un personnage qui a envie de tout détruire, donc on va dire aux joueurs qu'il faut faire tout détruire, tu vois, c'est une espèce de cercle vertueux où ils nous entraînent en permanence vers cette envie de destruction, et donc le personnage qu'on incarne, on le comprend parfaitement, tu vois, c'est ça qui est rigolo, c'est bah oui, il a raison, on s'en fout, c'est pour ça que je trouve qu'il y a le côté, donc à la fois autodérision, mais à la fois compréhension des codes du jeu vidéo, parce que bah, c'est chiant, tu vois, dans ce genre de jeu, il faut appuyer sur la manivelle, il faut prendre, tu vois, dans Doom, c'était très simple, il y avait une clé bleue, une clé jaune, une clé rouge, ça ouvrait des portes, et puis ça permettait de limiter un petit peu la progression du bonhomme dans chaque niveau, mais ça s'arrêtait à ça, il y avait pas d'énigme, il n'y avait pas de cube à pousser, il n'y avait pas de trucs comme ça. Ça, c'est des trucs très récents du jeu vidéo. Et dès que Doom essaye de glisser là-dedans, le Doom Game, il arrive, il met un gros coup de latte dans le truc, il envoie une roquette, et puis ça y est, c'est fini, il passe à autre chose. Ça, c'est vraiment effectivement très drôle, et ça participe justement à cette espèce d'euphorie qu'on va ressentir tout au long de l'aventure.
D'ailleurs, il y a un vrai travail qui est sympa vraiment sur l'animation, justement, des mains et compagnie, parce que finalement, il ne parle jamais, et pourtant, bah, on arrive à comprendre ça. Personnalité, aussi subtile soit-elle, on arrive à la comprendre par ses mouvements, son espèce d'impatience quand tu sais, on lui parle dans l'ascenseur, tu sais, tu vois qu'il commence à se craquer les doigts, tu sens qu'il en a marre, et je trouve bah, effectivement que ça te renvoie effectivement beaucoup à toi-même, et ça marche hyper bien juste par l'animation, quoi.
Ça, c'est des moments pour nous en tant que joueurs qui sont frustrants, tu vois, tu veux dire, t'attends, on est en train de te retirer le contrôle alors que c'était très rapide, très nerveux, et là, t'attends qu'une chose, c'est de pouvoir remettre ça. Donc, le fait qu'ils aient conscience de ça, ça montre vraiment leur travail de réflexion et de prise de recul sur ce qu'ils veulent faire et ce qu'ils étaient et ce qu'ils n'étaient plus. Et c'est ça finalement qui manque à pas mal d'autres studios, parce que bah, l'exemple de Doom, tu vois, quand on en a parlé dans la préparation, c'est que c'est un jeu qui, contrairement à tout un tas d'autres qui ont essayé de faire revenir comme ça du passé des vieilles séries, ils y sont arrivés sur la partie narration, et puis bah, comme on va le voir après, sur la partie gameplay également.
D'ailleurs, bah, je l'ai pas dit dans l'intro, mais moi, c'est vrai que moi, j'y croyais vraiment pas. C'est-à-dire que quand il s'est présenté le Doom de 2016, franchement, en tant que joueur justement qui n'est pas vraiment de cette génération, parce qu'en 93, moi j'avais 2 ans, donc mon père jouait à Doom, mais moi c'était pas vraiment mon truc. C'est vrai que Doom pour moi c'est vraiment un truc qui appartenait au passé, et je me demandais ce que des mecs comme id Software, à travers cette licence, pouvaient avoir à dire finalement dans le paysage idéologique des années.
C'est bon.
Et c'est bon, on peut mettre la petite piécette. Mais vraiment, tu vois, j'y croyais vraiment pas. Et d'ailleurs, même, je crois que les premières images, c'est vrai qu'elles avaient laissé assez.
C'est quoi, c'est un espèce de Reaper, comme on les appelle là, les gros méchants, c'est avec les deux lance-roquettes sur les épaules.
Ah,
là, et en fait, je crois que c'est un combat contre lui, mais la démo, tu vois, c'est ça qui était rigolo, c'est qu'ils avaient, je pense qu'ils avaient pas encore justement brisé l'armure, ils assumaient pas encore.
Ouais, totalement, le truc,
je reviendrai sur une autre anecdote après, mais pour pas l'oublier, cette première vidéo, elle montrait un jeu finalement qui était très lent. Tu vois, le rythme de cette première vidéo était lent. Pourquoi?
Parce
que c'était.
Je crois que c'est la vidéo de l'E3 2015.
Ouais, c'est ça. Voilà, donc un an avant la sortie, il y a une démo, une petite démo de gameplay en disant ça y est, on va vous montrer Doom, mais c'était très lent. Pourquoi? Parce qu'en fait, les démos sur scène doivent toujours être très lentes parce qu'il y a des gens qui regardent, qui peuvent avoir des problèmes de cinétose. Ça, c'est une première chose. Et surtout, il faut montrer les choses et pas donner la gerbe aux gens, en fait. Même les gens qui n'ont pas forcément le mal des transports peuvent être gênés par des vidéos comme ça qui vont très vite, et ça montre qu'ils avaient peur en réalité. Et moi, je me souviens très bien d'avoir échangé à l'époque avec les gens de la relation presse en France qui parlaient de ça, et je te jure qu'ils prenaient des pincettes énormes quand ils nous donnaient les versions preview du jeu. J'étais chez Gamekult encore à l'époque, ou quand ils allaient nous passer les versions test en nous disant bon, on sait pas trop, tu vois. Et ils sentaient qu'ils avaient tous peur parce qu'ils étaient pas sûrs. Ils avaient vraiment, voilà, c'est ça, une grosse crainte de est-ce qu'on s'est pas trompé, est-ce qu'on
est-ce
a réussi,
compris,
est-ce
même,
que ça va marcher, etc. Et donc, jusqu'au moment où tu vois, il y a eu la libération du ça y est, le jeu est sorti et tout le monde trouve ça cool, ils ont vraiment, jusqu'à la dernière seconde, ils n'étaient même pas sûrs d'eux en réalité.
Bah, c'est tout le défi en fait, on en avait déjà parlé, mais de montrer ton jeu, les jeux sont pas tous sur un pied d'égalité en fait. Quand tu montres, on parlait des FPS beaucoup plus narratifs. Je sais pas, que ce soit un Half-Life ou je sais pas, un BioShock ou un Medal of Honor, ils vont te montrer des scènes où ça passe, tu vois, que ce soit une scène du débarquement, que ce soit montrer les environnements de Rapture ou Half-Life 2. Bon, là, il suffisait que le mec du gouvernement il te parle et tous les gens étaient, c'était la communauté qui était folle, mais ça te montrait beaucoup d'environnements. Et dans Doom, c'est pas ça le jeu en fait, il y a aucune scène d'exposition.
Le
quoi.
Plaisir du jeu vient quand t'as justement les mains sur ton clavier et ta souris, quoi.
Voilà, t'es là pour tabasser des démons, et en fait, ça, un peu avant la sortie, tu commençais à avoir des vidéos de mecs qui jouaient aussi déjà sur PC. Ça change un petit peu parce que, effectivement, les vidéos montrées aussi, c'est un peu sur Mac. Et tu sens que la caméra elle est un peu posée sur des rails,
c'est pas du tout la
en
même
tout
vitesse,
cas c'est pas la, voilà, les sensations sont pas tout à fait les mêmes, et là tu commençais à soulever un petit sourcil, tu sais, ah ok, ça a l'air un peu différent de ce que j'ai pu voir le 3.
Mais c'est vrai que jusqu'à la dernière seconde, personne vraiment savait à quoi ça allait ressembler. Comme tu le dis, les vidéos là, il y a aussi pas mal de vidéos de présentation du moteur de rendu Vulkan, qui a été énormément rendu populaire par le jeu Doom justement, hein, parce que du coup d'habitude c'est soit OpenGL soit Vulkan maintenant, et c'était un des premiers jeux, si je dis pas de bêtises, qui utilisait cette technologie là cette fameuse techno qui était très très bien pour l'optimisation. Et c'est à ces moments-là qu'on a enfin vu des vraies images de gameplay, c'est-à-dire pas du jeu sur rail, parce que quand on est démonstrateur de ce genre de choses-là, on fait exprès de bien attirer l'attention sur le panorama, sur la petite vista au fond. Ah oui, le petit détail, regardez ici, il y a un truc caché, c'est important. Et là, en fait, c'était juste des gens qui jouaient et qui disaient, regardez, ça tourne à 400 000 FPS, c'est trop bien, et ça marchait bien. Et ils se prenaient pas la tête plus que ça. Et c'est là, en fait, qu'on comprenait finalement l'intérêt du jeu. Et moi, c'est finalement après coup, parce que je l'ai découvert très tard, hein, et c'est pareil, quand j'ai entendu tous les bons retours, je me suis dit, ah, mais ils ont réussi. Alors que pareil, comme toi, j'y croyais pas une seule seconde au départ.
Et du coup, à sa sortie, c'est vrai qu'il y a beaucoup de gens qui l'ont qualifié de jeu rétro, parce que justement, Doom va quand même beaucoup puiser dans toutes ses racines, et il fait des choses, en fait, on en discutait dans la préparation. On les appelle rétro parce qu'en fait, elles tranchent avec ce qui se fait actuellement. C'est-à-dire que déjà, tu parlais de cette histoire de clé bleue, de clé jaune, de clé verte ou je sais plus quoi. C'est vrai que c'est quelque chose qu'on n'avait pas vu depuis longtemps finalement dans les FPS, en tout cas les FPS très populaires, puisque justement ils s'accentuaient sur une proposition qui voulait se rapprocher du réalisme, avec les Call of et tout. Bon, c'est clair que dans Call of Duty c'est compliqué de mettre des clés rouges, des grosses portes qui brillent comme ça. Et là c'est vrai que Doom revient à des codes et même une iconographie qui peut être assez rétro en fait. Déjà il y a tout le bestiaire, puisque c'est Everybody's Here, quoi. Ils ont ramené tout le monde, tous les premiers ennemis de Doom, ils sont tous là et tous remodélisés, même si ils vont avoir un comportement assez différent.
Oui, parce que c'était des sprites. Hein.
Effectivement.
Ils se déplaçaient. Quand tu tournais, ça se déplaçait sur un point de pivot.
Mais fun fact, il y a quand même des petites zones secrètes dans le jeu où justement c'est rendu, le rendu est exactement proche des premiers Doom. Mais bref, du coup, il y a toute cette iconographie qui fait rétro, et je pense que c'est pour ça que quand le jeu est sorti, on a commencé à se dire ah ouais, en fait, ça, ils veulent faire un truc très très à l'ancienne, quoi. Même le fameux test de jeuxvideo.com qui disait que le jeu était trop labyrinthique, c'est assez intéressant quand même. Je trouve que ça révèle quelque chose d'une espèce de culture jeu vidéo qu'il y avait à ce moment-là, 2016, où effectivement le FPS c'était des couloirs, quoi. C'était vraiment que ça, que
De toute façon, il y a tout un tas de mèmes où vous regardez la génération des maps de l'époque, de, les maps de Doom en plus sont particulièrement travaillées à ça, ou même des maps de Quake, versus des maps modernes où c'est t'avances, point A, cutscene, point B, checkpoint, point C, re-cutscene, et ainsi de suite. Et du coup, forcément, je sais plus qui c'est le type qui avait testé ça, je suis vu2.com, mais pour le coup, il est rentré dans l'histoire un petit peu, parce que c'est vrai que sa réflexion, enfin, moi j'étais encore chez le concurrent en face, on était mort de rire, parce que c'est vrai que c'était drôle de se dire, ben, tu vois, t'as le petit jeune qui arrive, on lui montre un niveau où c'est vraiment le bordel, il faut sauter partout, il y a des trucs cachés partout, et il y a 6 ou 7 chemins différents, et pas juste un gros chemin avec une grosse lumière et une peinture blanche qui te dit, vas-y, c'est là. Et il était paumé, et forcément, tu vois, il y avait un petit peu de... c'était un peu malsain, tu vois, de se moquer de lui là-dessus, mais comme tu le dis, par contre, ça révèle que bah, le FPS avait complètement enterré cet aspect-là. Le level design était quelque chose qui avait disparu du FPS pour se transformer... j'exagère, évidemment, en disant
c'est
ça...
C'est pas le même, en fait. C'est-à-dire qu'il y a une philosophie de level design qui est beaucoup plus dirigiste et tout, qui a ses forces, hein, en termes de rythme. Moi, j'aime bien les couloirs aussi, mais c'est vrai que c'est totalement différent de ce que pouvait faire Doom en 93 et de ce que fait Doom en 2016.
Parce que, ouais, la formule des autres FPS c'était très effectivement le couloir, et sur les petits côtés tu vas avoir le petit easter egg ou le petit une petite boîte de munitions un petit peu vite, c'est juste toujours des petites récompenses, tu vois, dès que tu faisais un chemin de côté. Là c'est vraiment le chemin principal qui parfois qui est caché, ça fait partie de l'expérience de Doom, de juste pas savoir où t'es et de devoir trouver ton chemin.
Oui, et puis d'avoir une porte fermée, justement cette fameuse le jeu d'ailleurs t'initie très très bien au début avec vraiment une porte qui est fermée, tu dois faire une petite boucle de level design assez classique où tu vas faire un petit détour, tu récupères la clé, tu reviens et tu ouvres, enfin c'est tout bête, mais le jeu va répéter ça et va faire des itérations qui vont nous emmener dans des trucs de plus en plus complexes et dans des niveaux qui sont de plus en plus ouverts, entre guillemets, parce qu'on peut aller à plusieurs chemins, et puis surtout, ouais, il cache tout plein de petits challenges. Il y a ces espèces de défis là qui sont sur des espèces de grosses stèles qui sont toujours cachées, et il y en a, faut arriver à voir un petit peu au loin, un peu à la façon d'ailleurs From Software, tu sais, où quand tu poses à un endroit, tu peux apercevoir un objet bien plus loin et tu te dis, ah, attends, peut-être un moment, je pourrais revenir ici. Et le jeu utilise un petit peu ce genre de technique de level design, quoi.
Il y a aussi les petites poupées qui avaient bien marqué avec les petits gifs, les petites poupées du Doom Guy, où tu vois, qui se faisaient un brofiste entre eux, c'était sympa. Il y a vraiment tout un tas de choses cachées, mais c'est toujours très malin. Moi, le niveau qui m'avait marqué, c'est quand tu sors vraiment du prologue et que tu vois cet énorme panorama sur Mars, et que tu vois la planète, en fait, comme ça, qui est en train d'être détruite avec des je crois qu'il y a des trucs en feu, il y a des buildings qui sont en train de se crasher, etc. Et après, ben, t'es vraiment dans un niveau où il y a des cavernes, il y a des trucs dans tous les sens, tu peux sauter, tu vois qu'il y a des chemins qui s'entrecroisent, etc. Et c'est vrai que ça faisait, en fait, finalement très longtemps qu'on n'avait pas vu ce genre de choses, mais au final, c'était pas très grave, parce que même si je me souviens parfaitement avoir tourné en rond plein de fois, mais le jeu, j'étais pas frustrant, parce que j'étais pas dans une optique de chercher à avancer, je voulais juste retrouver une autre arène et me dire, bah tiens, si je trouve une grande salle, ça veut dire qu'il va y avoir plein de monstres et je vais me marrer, quoi.
Non, et puis c'est surtout que le FPS, on va dire traditionnel des années 2000, et c'était quelque chose qui était très statique, et c'est vraiment des guerres de tranchées, quoi. C'est vraiment je tire, je nettoie un petit peu ce qu'il y a devant moi, et ensuite j'avance, prochaine couverture, etc. C'est pour ça que quand tu me parles de Gears of War,
oui, c'est un peu une philosophie opposée, on est d'accord.
C'est quand même Gears of War, c'est on avance cran par cran, alors que Doom, tu tournes, quoi. Tu es au milieu du combat et tu te balades dans toute l'arène. Donc,
oui, et puis tu te baladais tout le temps, je veux dire, même dans les vieux, hein, tu t'arrêtais jamais. Ouais, si tu t'arrêtais, t'étais mort de toute façon, il fallait courir, petit à petit, ils se sont dit, tiens, on va se mettre à faire du saut, et c'est comme ça qu'on est arrivé à des Quake et des Quake 3 Arena où les mecs ils se déplacent que en sautant, finalement, quoi.
D'ailleurs, je parlais d'iconographie, il y a aussi ces fameux bumpers, il y a des niveaux où on commence, il y a des espèces de gros trucs qui nous font jumper on traverse quasiment toute l'arène. Ça, c'est quelque chose qui m'a vraiment surpris, parce que effectivement, on n'a plus l'habitude de voir ce genre d'items, de points d'interaction dans les jeux, surtout dans un FPS, quoi, et c'était vraiment surprenant de pouvoir jouer avec ça, et alors que c'est un feeling qui est vraiment super ancien, quoi, qui date des années 90, mais dans les années 2010, c'est vraiment rafraîchissant, et surtout pour des gens de ma génération.
À part Portal, personne n'avait fait des trucs comme ça,
en fait.
Mais Portal, c'était de la plateforme et du puzzle, on n'était pas dans du FPS shoot, soit, donc forcément, c'était complètement dissocié de la partie action.
Parce que, t'as aussi des petits vortex qui téléportent à un autre endroit de la map, et ça, c'est des trucs, en fait, c'est parce que ça n'a aucun sens, tu vois, même dans le jeu Doom, enfin, les tremplins, les vortex, ils ont aucune. Il y a peut-être un vieux prétexte intradigétique. On a eu le débat sur Discord, mais parce que ça a pas de sens. Et effectivement, là, on était plus, comme on le disait, dans des FPS qui essaient de justifier un petit peu leur univers, de s'expliquer. Et là, il y a une inspiration, je pense, très multijoueur, hein, comme on le disait, que ce soit les Unreal ou les Quake 3, où t'avais ces fameux tremplins où ouais, tu peux carrément passer de l'autre côté de la map et faire des petits air jump en passant. Et du coup, c'est une inspiration qu'ils ont complètement remis dans un level design solo pour le coup.
Ouais, c'était... Bah ouais, tout le jeu en fait est conditionné par son par le gameplay en fait. C'est-à-dire que c'est le gameplay qui a dicté la direction artistique. Le fait qu'il y ait un bumper, voilà, c'est parce qu'ils se sont dit c'est bien qu'il y ait un bumper parce que tu pourras sauter et passer par-dessus un cacudémon et lui faire un espèce de gros headshot avec ton fusil à pompe en sautant et ce sera cool. Donc il faut que ça soit là-dedans. C'est pas l'univers qui doit justifier la présence des.
J'étais en train d'imaginer, tu sais, les exécutifs et genre le VRP du marketing de chez UAC qui utilise, tu sais, je vais à ma pause café.
ça, c'est un peu ça, effectivement.
Mais du coup, c'est bien parce que bah, c'est la bonne transition, c'est qu'en fait, ils sont partis justement de cette idée de game design, de partir de là, et après, ils ont construit l'intégralité de leur jeu autour de ça. Et ça a dicté, bah, ça a dicté l'univers, ça a dicté le level design, et bah, c'est toi, Max, qui en parlais le mieux, je crois, de la partie gameplay, parce que t'as regardé plein de vidéos qui en parlent.
Voilà, je ne fais que répéter hein, ce qu'ils disaient, mais leur philosophie, leur pilier, c'était vraiment ce qu'ils appellent le push forward combat. Donc le combat, on avance toujours, on pousse, on avance, c'est ça. Et quelque chose qui, comme ça a été dit, était déjà présent dans les premiers Doom, parce qu'on parlait effectivement de cette fameuse crise d'identité avec Doom 3, il y avait un peu ce côté, ils voulaient faire du narratif, ça n'a pas si bien marché. Le projet Doom 4 qui a été annulé, c'était aussi beaucoup de l'histoire, et ils se sont dit, bon ok, c'était quoi en fait Doom 1 et 2, qu'est-ce qui a fait que ça a marché? Et ils se sont rendu compte, c'était vraiment beaucoup le mouvement, le fait de toujours bouger, et il y a des choses qui font qu'on a cet état... Premièrement, les armes n'avaient pas de chargeur, en fait, elles ne se rechargeaient pas, c'est-à-dire que vous pouvez toujours tirer, et dans les playtests, ils avaient testé avec le Doom, quand si tu mets un chargeur, en fait, tu tires, et une fois que ton chargeur est vide, bah, tu vas te planquer derrière un mur pour recharger tes armes, surtout si tu en as une dizaine, parce que ce que tu vas faire en général, c'est tu vas beaucoup tirer avec une arme, une fois que le chargeur est vide, en fait, tu vas swapper d'arme, puis tu vas vider le chargeur, puis tu vas changer d'arme, puis tu vas vider le chargeur, et à un moment, tu vas te cacher, tu vas recharger 10 armes, tu vois le mec qui est en train de sortir son pompe, qui recharge, qui sort sa mitrailleuse, qui recharge, c'est assez drôle, mais du coup, c'est pas du tout dans la philosophie, et ils ont fait ce truc un peu rétro, parce qu'on se disait, est-ce qu'il y a des jeux, en fait, où il n'y a pas de chargeur, des FPS récents? Moi, j'en vois quasiment pas. On disait Half-Life, c'est peut-être un des premiers à avoir instauré ce chargeur dans les armes. Moi, je crois pas que récemment.
De toute façon, voilà, c'est toujours la volonté de faire aussi du réalisme. C'est envie d'avoir ce truc chargeur. Et puis, ça rentre bien, effectivement, dans une dynamique de statique et de dire je tire, je me cache, je tire, je me cache. Et tout ça, en fait, avec le système de santé, etc., ça a fait les FPS, peut-être qu'on les connaît, c'est Call of.
D'ailleurs, le système de santé, c'est aussi un truc, le fait que la vie se régénère. Tu vois, c'est un truc qui a disparu, qui est apparu, justement, avec les FPS plus modernes. Ouais. Mais à l'époque, Doom, c'était le jeu où tu récupérais ton petit armure, ensuite tu récupérais tes petites fioles bleues d'armure, ton petit casque que tu te mettais dessus, et c'est ce qui te permettait de survivre. Tu avais vraiment tout cet ensemble d'objets et de petits équipements que tu chopais juste en passant dessus, et encore une fois, on avait encore cette idée, comme tu disais, de ne jamais s'arrêter. C'est-à-dire que tu voyais si tu voyais une armure, tu courais dessus, ça allait te sauver parce qu'il te restait plus que 4 points de vie, tu te retournais, tu vidais tes chargeurs de super shotgun ou de...
Oui, rien que le fait même de ne pas avoir appuyé sur un bouton pour prendre l'objet, ça c'est un petit choix de design en fait, qui t'explique bien qu'effectivement cette idée de mouvement.
À l'inverse, je crois que, si je dis pas de bêtises, Wolfenstein, le reboot, donc je sais pas si c'est New Order ou celui d'avant, je crois que c'est celui d'avant, il y a toujours
je crois
ce
que
côté.
C'est Return to Castle Wolfenstein.
Après.
Celui de encore après, alors je sais pas.
Reboot.
Bref, un plutôt récent du coup, pour le coup. Lui, il y avait toujours ce côté un peu entre guillemets old school où tu récupères la vie par terre, mais je crois qu'il fallait appuyer sur un bouton pour le ramasser, et c'est super chiant parce que t'es en pleine fight et tu t'as besoin de vie, tu cours vers la vie et tu dois ramasser pendant que tu bats, c'est très chiant. Mais oui, comme tu le disais, le simple fait que les munitions et la vie soient éparpillées dans le niveau, c'est encore une incentive, tu vois, une motivation à bouger. Parmi les autres trucs qui te font bouger, et ça, c'était encore une fois, on revoit qu'il y a des renvois au premier Doom, le fait que la plupart des ennemis t'envoient des projectiles, c'est-à-dire que tout est esquivable, ou t'attaques au corps à corps, et ça aussi c'est esquivable. Ça s'oppose donc au hitscan, les hitscans c'est les balles qui vont te toucher en fait instantanément, une fois que quand l'ennemi tire, boum, ça te touche direct. Là, tous les projectiles sont esquivables, et les ennemis aussi, et tu as des ennemis qui te coursent, t'as les fameux les knights ou les barons. loin. Ça, c'est des ennemis qui te courent après, qui sont très massifs, qui sont des gros sacs à PV, et ils te courent après, et encore une fois, tu vas complètement bouger. On va revenir à plein de détails après, mais tout ce qui te fait bouger, ça te donne un peu un feeling. Ça, c'était Hugo qui le notait. C'est plus un feeling beat them all au final que vraiment, ouais, que vraiment FPS.
Bah, en tout cas, pour moi, c'est un feeling beat them all parce que justement, j'ai cette culture-là. C'est-à-dire que pour moi, la culture du FPS, c'est quelque chose de statique. Alors que quand je joue à Doom, j'ai beaucoup plus l'impression de jouer à Bayonetta en fait, parce que je suis au milieu du combat et que je vais dans tous les sens. Donc, c'est pour ça que moi, ça me parle de cette esthétique beat them all. Mais quelqu'un, j'imagine, qui a connu les fast FPS et Quake et compagnie, ne sera pas forcément d'accord avec moi parce que pour ces personnes-là, ce sera ça finalement l'esthétique du FPS. C'est pas quelque chose qui est... Doom, c'est un jeu où t'es vraiment très proche des ennemis, alors que dans un Call of ou un truc comme ça, t'as quand même beaucoup de missions où tu vas te balader avec un sniper et les ennemis sont à 300 mètres et c'est vraiment ta visée précise qui va être intéressante, c'est ça qui va donner un peu de sel au jeu, alors que dans Doom, c'est pas du tout le cas.
Là, tu vas vraiment les chercher, c'était à une con GDC, t'avais alors j'ai oublié un petit peu son titre, mais lui il est dans la programmation, et il disait que en fait dans Rage, donc les IA se mettaient à couvert, il y avait dans le programme quelque chose qui fait que dès que le personnage il arrive dans un certain radius de l'ennemi, l'ennemi il va se mettre à couvert, tu vois, il t'a repéré, hop, il va se cacher, il va te tirer dessus derrière un mur. Donc ça doit dépendre des ennemis, t'en as qui te courent dessus, mais c'était ça, il y avait ce comportement d'IA qui existait. Et en fait, ils ont fait juste l'inverse dans Doom, où quand t'arrives dans un certain radius, les ennemis vont un peu s'exposer, tu vois, les imps et tout, qui ont tendance à monter au plafond, ou qui peuvent grimper des murs, bah ils vont un peu s'exposer à toi pour que tu puisses aller les chercher.
Oui, complètement, c'est un jeu où tous les ennemis se montrent à toi et veulent être là sur ton écran pour que t'aies l'impression d'être complètement submergé par le nombre de démons que t'as autour de toi.
En fait, ce qui se passe, c'est qu'au lieu d'avoir des toutes petites boucles de gameplay où, comme tu disais, c'est tu tires, tu vides ton chargeur, tu observes la scène et ensuite tu remets ton viseur pour enchaîner, là en fait la scène est la même, c'est juste qu'elle est beaucoup plus longue. C'est juste qu'au moment où il y a un début de combat, ça va monter pendant quelques minutes, ça va être de l'euphorie pure et dure, et après, bon, pendant quelques mètres, on va te laisser tranquille, on va te laisser reprendre ton souffle, et ça reprend aussitôt. Alors que dans les jeux plus récents, on a haché énormément pour créer des toutes petites boucles de petits plaisirs comme ça, où tu vas réussir à tuer les ennemis. Là, en fait, les zones de combat, c'est tu commences un combat, tu vois qu'il y en a 15, et puis au final, ils sont pas 15, et après, il y a une deuxième vague qui apparaît, tu vois qu'il y a des failles de l'enfer qui apparaissent, et puis il y a d'autres ennemis de plus en plus qui sont là, et toi, tu continues, parce qu'en fait, derrière, on n'en a pas encore parlé, mais il y a ces fameuses mécaniques de récupération de munitions, et de la vie aussi, qui font qu'en fait, tu es obligé de rester au contact, et de monter au contact pour pouvoir survivre, tout simplement.
Oui, parce qu'il y a quand même une problématique vis-à-vis des munitions, c'est-à-dire que tu vas quand même vider tes trucs, tu n'as pas besoin de les recharger, mais tu vas les vider. Et l'idée, c'est où c'est que je vais aller récupérer des munitions ou même de la vie, tu le disais, c'est dans le niveau, mais à un moment, il n'y a plus rien, et le jeu, en fait, met les munitions à l'intérieur des ennemis, et il faut que tu utilises cette fameuse mécanique donc du glory kill.
Les munitions, c'est plutôt la tronçonneuse. Et le glory kill, c'est plutôt de la vie.
Ah, oui, c'est l'inverse. C'est la tronçonneuse des munitions.
Le truc, c'est qu'il s'adapte en fait par rapport à ses besoins. Donc, si tu as beaucoup de munitions en fait et que tu tapes, il te donne. Je dis des bêtises. Il y a des couleurs. Tu sais, quand c'est jaune, tu vas récupérer des munitions. Quand c'est bleu, tu vas récupérer
la vie. La tronçonneuse ne te donnera que des munitions. Et quel que soit ton niveau de munitions,
ça va tout recharger.
Après, ça t'en donnera plus ou moins en fonction de la taille quand même de l'ennemi. Mais le glory kill, c'est quasiment tout le temps de la vie. Mais il me semble qu'effectivement, si
tu
es low en munitions.
Tu as des couleurs. Enfin, je sais pas si tu te souviens, tu sais, quand il brille en orange, c'est que tu les tapes, ils donnent des munitions, et quand ils sont en bleu, c'est de la vie.
En fait, ils donnaient tout le temps de la vie, et ça s'adapte en fonction de ton niveau de munitions, ils t'en donnent un peu quand même.
Ils vont t'en donner plus si t'en as besoin, mais justement, tu peux t'adapter aux couleurs. Justement, tu peux les laisser clignoter genre en bleu si tu veux pas de vie, et t'attends que ça passe au orange. Il me semble que c'est ça, je crois bien. Mais du coup, de toute façon, quoi qu'il en soit, c'est vers les ennemis, et c'est en les stunnant et en se rapprochant du coup très 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 proche d'eux pour leur faire un fatality évidemment, et on récupère donc les munitions comme ça, et forcément c'est quelque chose qui nous fait beaucoup bouger et nous force à être mobile. Et quand t'es un peu en haste de munitions, du coup tu vas essayer de mettre tout le monde stun et essayer de récupérer un peu des munitions partout en butinant tous les ennemis en leur massacrant la tronche, quoi.
Et ça, c'est là que c'est fort, c'est que même quand t'es low en vie, plutôt que de te cacher ou quoi, il faut que tu fonces vers l'ennemi pour lui foutre une grosse patate et l'achever. Et en plus de ça, c'est le festival du gore, quoi, parce que t'as je sais pas combien de glory kills différents en fonction des ennemis et aussi de l'endroit d'où tu,
tu
vas l'activer.
Ouais. Ouais, si tu regardes la jambe, dessus, tu peux leur glisser dessus.
Si tu regardes la jambe au moment où tu le fais, il fait une espèce de balayette, de gros coup de poing. Si tu regardes la tête, il va plutôt, je sais pas, le décapiter. Et ça dépend. Genre, un des plus dégueux, c'est les Mancubus où, je sais pas,
il tire le cœur,
il
chope
une espèce de
cœur,
il le fout dans la bouche et ça explose, tu vois, c'est dégueulasse. C'était une des inquiétudes d'ailleurs dans la vidéo de l'E3, parce que quand c'est montré, c'est un peu lent, tu vois, tu dis ah, putain, ça va chiant, et en fait non, ça va très vite. Moi je trouve que ça va dans la philosophie.
Les animes, elles sont vraiment fast-paced, et tu sais, ils font vraiment une espèce de grosse fixette sur l'image importante, dans la bouche, et en fait les mouvements qui lient les deux sont très téléphonés.
Il y a énormément de frames qui sont jartés pour que ça donne une impression de vitesse, en fait.
Vraiment genre 2-3 trucs images qui vont imprégner la rétine, et ensuite on repart sur la suite, quoi.
Et ça, pour l'anecdote, ça c'est quelque chose qui reste en fait du projet annulé, parce que ça c'était pas dans les premiers Doom, évidemment. C'est dans le Doom 4 qui a été, il faudrait qu'on lui donne un nom, on va dire Doom 4 pour quand c'est le projet annulé, et Doom quand c'est celui de 2016. Et donc dans Doom 4, cette mécanique, elle existait, et c'était, là pour le coup, c'était effectivement, il n'y avait pas cette réflexion derrière du ça te donnait des munitions, de la vie, et du coup ça te fait bourriner. C'était juste cool, tu vois.
C'était
du gore comme ça. Mais ils ont commencé à se rendre compte que c'était effectivement sympa de passer d'ennemi en ennemi pour le faire, et que ça s'intégrait complètement dans leur philosophie du push forward combat.
Et puis même, tu le disais, c'est vraiment intéressant. Enfin, moi j'ai quand même été fasciné par le travail qu'ils ont fait sur les ennemis, parce que c'est un peu ce qu'on avait dit dans notre loop, c'est que c'est vraiment eux les stars du jeu, leur manière d'être, ils téléphonent toutes leurs attaques, leur manière de se mouvoir, mais aussi les rôles qu'ils vont avoir dans chacune des compositions. T'as les espèces donc de squelettes là avec les lance-missiles qui, en fait, dès que eux ils arrivent, c'est super intéressant. Enfin, c'est là aussi où on voit que c'est un jeu qui est très maîtrisé, c'est que c'est le moment où tu récupères le double saut. Donc dès que tu récupères ce gros pouvoir sur la verticalité qui te permet de monter beaucoup plus haut, hop, t'as un ennemi qui a un jetpack au miche et qui va pouvoir te courser et te forcer justement à user toute la verticalité du niveau. Et ça, par contre, effectivement, c'est quelque chose qui est plutôt neuf par rapport à ce qu'on connaissait dans les premiers Doom.
Ce que j'ai trouvé intéressant, c'est que, tu vois, pour quelqu'un comme moi qui sait pas très bien jouer au FPS, en fait c'était finalement plus facile, parce que c'est bizarre, mais tu vois, se jeter sur l'ennemi, ne pas trop viser et tirer au niveau de ses pieds pour être à peu près sûr que l'explosion lui fasse des dégâts, ça marche très bien quand tu sais pas jouer, tu vois. C'est finalement des réflexes que t'as, du genre tu fais n'importe quoi, tu cours dessus et ça va peut-être passer. Ce côté un peu suicidaire du personnage qu'on peut avoir, en réalité, ça s'intègre tellement bien dans cette logique que ça a donné finalement en fait un nouveau souffle au jeu Doom, parce que t'avais évidemment pas ça. Tu vois, la tronçonneuse dans le jeu de base, elle était cachée dans Doom 2, il fallait revenir en arrière, machin, et tu pouvais tuer pas tout le monde avec, mais tu pouvais vraiment passer ton temps à déchiqueter les ennemis, et c'était pas ça qui allait te donner les munitions, c'était simplement rigolo parce que le sprite il se déchirait en deux, il y avait des pixels rouges, quoi.
Et pour en revenir aux notions de composition d'ennemis, on a parlé des knights et des barons qui eux te coursent et te forcent du coup à courir en arrière et à leur tirer dessus, ou prendre un petit tremplin, tu vois, t'échapper un peu d'eux, respirer un peu et continuer quand même à leur tirer dessus jusqu'à ce qu'ils crèvent. Il y a aussi, t'as le summoner, donc celui qui invoque des zombies sur le champ de bataille, et lui clairement c'est celui que tu dois vraiment target dans une fight, parce qu'il va invoquer de plus en plus d'ennemis, donc tu vas claquer des munitions, c'est hyper relou. Et donc lui tu vas le repérer, tu vas le courser, parce qu'en plus il se téléporte, hein, évidemment, sinon c'est pas drôle. Donc encore un ennemi qui te fait énormément bouger pendant que t'en as d'autres qui courent, d'autres qui te jettent des boules de feu, enfin c'est vraiment tout ça. T'as aussi les Pinky qui eux aussi sont repris de Doom, mais là qui ont un comportement vraiment de taureau, qui va te foncer dessus, qui ont une énorme carapace devant, et par contre qui sont très vulnérables derrière, donc hop, tu les esquives et tu les bourrines derrière. Et pour montrer qu'il y a, et ça c'est, ils s'en rendent complètement compte, tu vois, ils évitent d'ailleurs de mixer ceux qui te poursuivent avec des Pinky, parce que c'est deux comportements qui se répondent pas en même temps. Tu peux pas attendre un Pinky pour l'esquiver pendant que t'as un énorme baron que t'as au cul. Donc tout ça c'est vraiment réfléchi.
Mais d'ailleurs, c'est vrai que ça fonctionne super bien, toutes ces compositions d'ennemis et toutes les armes qu'on a, mais c'est vrai que sur le dernier tiers du jeu, justement, une fois que le jeu a introduit tous les ennemis et qu'on a toutes les armes, là, on commence un peu plus à... Le jeu commence à s'essouffler, et c'est d'ailleurs à ce moment-là qu'il y a les boss qui apparaissent, puisqu'il y a quand même des boss dans le jeu, mais ils arrivent vraiment à late game. Donc il y a le Cyber Demon, qui est quand même vraiment iconique de Doom, et qui a un combat qui est... c'est peut-être le meilleur, celui que j'ai préféré. Mais après t'as les espèces de gardiens là qui sont vraiment pas très intéressants, je me souviens même plus d'ailleurs comment on les bat, tellement c'est pas intéressant. Et puis après t'as l'espèce donc Olivia Pierce qui se transforme en espèce de gros robot cerveau, et là faut lui tourner autour et lui massacrer, enfin lui envoyer tout ce que t'as dans la tronche, quoi. Et en fait je trouve que les boss
illustre à quel point le jeu est réussi quand t'es dans la mêlée, quand t'as beaucoup de monde autour de toi et que tu dois bouger dans tous les sens et que t'as des ennemis, t'as l'impression que t'es complètement étouffé sous les ennemis. Ça fait penser, vous savez, un peu dans God of War 3, au moment où il y avait une espèce de script, quand t'avais plusieurs ennemis qui se réunissaient sur toi, tu sais, Kratos pouvait être complètement étouffé sous les ennemis.
Et tu les faisais ressortir comme ça,
voilà, ouais. Tu les faisais exploser comme ça. Et c'est un peu ce feeling-là que t'as à Doom, mais en mode vue subjective, quoi. Et là, quand t'es autour d'un boss, bah, tu strafes juste autour, tu lui vides un peu toutes tes munitions et c'est beaucoup moins intéressant que quand il y a plein d'ennemis, quoi. D'ailleurs, les meilleurs moments, ceux qui ont plus d'adrénaline, c'est quand il y a des vagues et des vagues qui s'enchaînent, que tu vois des gros mancubus qui sortent avec des barons, des machins, et tu dis oulala, il y en a de partout, il faut que je me concentre, et ça c'est vraiment cool.
Bah, c'est vraiment une gestion du flow, hein, tu vois, on en revient toujours à cette notion de flow, donc le fait de nous faire perdre comme ça le sens du temps, etc. Tu rentres dans une espèce d'euphorie qui est complètement barbare et qui est complètement assumée. Et encore une fois, ce qui est intéressant, c'est que là, dans ce Doom-là, ben, ça, tout est renforcé par tout ce qu'on voit, c'est-à-dire que le visuel, l'esthétique, le sonore, etc. ne fait que nous pousser à aller encore plus loin dans ce délire sanguinolent, parce que c'est drôle, parce que bah, pourquoi tu vas faire des glory kills, parce que c'est joli, oui, mais t'en as aussi besoin. Donc ils ont créé à la fois un vrai besoin d'un point de vue jeu vidéo, et une petite récompense du point de vue visuel, parce que c'est évidemment trop marrant d'arracher le bras d'un démon, de lui écraser la tête en lui donnant un grand coup d'épaule dans la tête. Enfin, c'est, voilà, tous ces petits délires là, ça fonctionne évidemment très bien et ça s'intègre parfaitement dans leur boucle de gameplay, parce que c'est un jeu qui du coup te maintient comme ça dans une espèce d'apnée. Moi j'appelle ça, tu vois, les moments où d'apnée où à la fin je me rends compte que je fais une énorme inspiration et en fait ça se trouve ça faisait plusieurs minutes que je battais mon propre record, tu vois, j'en étais pas conscient, mais où tu te rends même plus compte, tu fais même plus gaffe à tout ce qui se passe à côté. Donc c'était pas forcément un jeu qui était évident à faire parce que je l'avais fait en streamant, mais à chaque fois que j'y jouais et que j'avais plus de caméra, je pouvais vraiment me concentrer sur cette action et m'immerger dedans, et c'est un vrai kiff, quoi. C'est ça qui est génial, c'est qu'en fait c'est finalement quelque chose qui m'avait peut-être manqué, parce que moi les FPS moderne, j'ai un peu du mal, et je m'étais toujours dit j'aime pas ça, tu vois, je m'étais toujours dit les FPS j'aime pas ça. En fait c'est plus que j'aime bien cette approche là de bah c'est débile, on réfléchit pas trop et ça fonctionne à fond. Et tu vois, j'en parlais dans mon bouquin sur Diablo, alors je suis désolé de le citer, mais le personnage du barbare par exemple, il a un fonctionnement qui est très proche du Doomguy. En fait sa magie, c'est pas du mana qu'il a, il utilise des potions, il faut qu'il tape sur les ennemis et dès qu'il s'arrête de taper, sa magie redescend. Et donc juste en changeant la façon dont il génère l'énergie dont il a besoin pour faire ses coups spéciaux, il te pousse à jouer un barbare, puisque t'es obligé de taper, et donc plus tu tapes, plus t'as envie de taper, plus tu tapes, plus tu peux taper, et il crée comme ça un cercle. Et finalement, le Doomguy, et comment on le joue avec cette notion de tronçonneuse et de glory kill, c'est un peu la même idée, c'est-à-dire que comment tu vas générer ton énergie c'est tes munitions, et ben tu dois aller vers l'ennemi en permanence, et donc tu retrouves cette logique-là. Et je me demande dans une certaine mesure s'ils n'ont pas réfléchi en voyant ça, parce que la particularité de Diablo 3, c'était justement d'avoir transformé le jeu en changeant comme ça juste la façon dont tu génères ton énergie, ça force les joueurs à adopter un style de jeu qui colle au visuel.
De toute façon, Hugo Martin, c'est un gros fan de Bloodborne, et bah, c'est un peu comme la mécanique de la récupération de vie dans Bloodborne, c'est-à-dire que tu vas faire ce coup-là, tu t'en prends un, et comme tu sais que tu as cette possibilité-là, que tu vas pouvoir récupérer ta vie en tapant, bah, ça t'encourage, ça t'incite en fait à te comporter d'une telle façon. Et bah, du coup, ouais, Doom, c'est vraiment ça. D'ailleurs, il en parlait, il disait que Bloodborne, c'était aussi un peu du push-forward comme ça. Et ouais, c'est complètement ça. C'est des petites règles, en fait, des petites conditions qui vont te conditionner justement à agir d'une certaine façon.
Et pour l'anecdote, ça me rappelle aussi juste Age of Mythology, où tu sais, t'as différents peuples et en fait, ils récupèrent de la foi d'une façon différente. Et t'as les Nordiques qui sont justement un peuple un peu barbare, eux ils en chopent en se battant. Du coup, quand tu joues les Nordiques, t'as des stratégies militaires beaucoup plus agressives pour récupérer un petit peu cette monnaie. Voilà, on a fait tous les exemples.
Ça y est, on a fait le name dropping nécessaire, ouais. C'est bon.
Et vient un peu
ça,
comme on est trop culturé dans fin de game.
C'est le CSA qui veut ces exemples.
Non, mais c'est pour expliquer à quel point Doom, sous ce côté faux, rétro, en réalité, un jeu qui est très moderne, parce que cette approche-là du game design, c'est finalement quelque chose de très récent. Réussir à pousser les joueurs à faire quelque chose qui va coller à l'univers, à l'esthétique, à tous les éléments dont on dispose pour comprendre l'univers dans lequel on évolue, coller des mécaniques de game design qui nous poussent à aller dans cette direction-là, c'est finalement quelque chose d'assez récent, parce que pendant très longtemps, on s'embêtait pas, on te disait bah la princesse elle est dans un autre château, va sauter sur des tortues, tu vois, donc c'était pas, y avait pas de logique. Effectivement on peut parler d'affordance et du fait que t'aies envie de sauter sur une tortue parce qu'elle a une carapace, ça y a aucun problème, ou que t'aies envie de rentrer dans les tuyaux de Mario là, mais par contre y avait pas forcément de rapport avec l'univers, y avait pas vraiment de justification de ce que tu faisais, alors que là Doom, ils ont créé un univers qui se justifie par les mécaniques de game design, et ça bah, c'est vraiment une approche du jeu vidéo que je trouve qui est très moderne, c'est de lier l'intégralité du game design, du level design, de narrative, etc.
Non, et puis même, il y a un vrai savoir-faire sur l'IA, en fait, sur les prises de décision. Tu vois, le fait que les IA, ces espèces d'autorisation de t'attaquer si elles sont dans ton champ de vision, alors que si elles sont derrière, en fait, elles vont juste glander jusqu'à que tu les regardes. Bah, ça, c'est vraiment des petits tricks de game design qui sont arrivés avec l'époque moderne, et c'est tel jeu qui a eu telle idée, qui se sont dit « Ah ouais, on va faire ça ». Et c'est pour ça que tu sens que bah, ce Doom-là, en fait, il n'aurait jamais pu exister avant. Il n'aurait pas pu exister en 2011. Il ne pouvait pas exister au moment où ils ont commencé à bosser sur Doom 4. C'est-à-dire que non seulement il a fallu passer par cette crise d'identité pour qu'ils comprennent un petit peu ce qu'était leur Doom, qu'est-ce que c'était ça, et ensuite ils ont pu bah, regarder tout ce qui se fait, bah, faire du benchmark quoi, et se dire bah, voilà, comment, quelles sont toutes les petites idées qu'on peut prendre pour nous renforcer notre proposition quoi.
Et un jeu qu'on n'a pas cité alors qu'on aurait pu, et c'est vrai qu'on l'avait oublié, c'est Left 4 Dead hein, tu vois, qui lui pour le coup est peut-être un des derniers survivants comme ça, qui était une espèce de petit halo, c'est une petite oasis de bourrinitude au milieu des FPS plutôt historiques et plutôt guerriers, et justement Left 4 Dead est un jeu qui est extrêmement connu pour l'intelligence artificielle qui génère les événements et qui génère la composition des ennemis pour pousser les joueurs à être séparés, à devoir forcer pour se remettre ensemble, à faire en sorte qu'ils se packent pour essayer de détruire la masse. Enfin, tous ces trucs-là, c'est des choses qu'on va ressentir également dans la composition des ennemis, parce que tous ces trucs-là, finalement, c'était peut-être quelque chose auquel ils pensaient pas forcément à l'époque. C'est vrai qu'il y avait des moments où il y avait des niveaux qui étaient incroyablement difficiles. Doom 1 et Doom 2 sans code, honnêtement, moi j'ai jamais réussi à les finir. Je trichais, tu vois, comme tout le monde. Je vois la console, je mettais mon code pour les armes infinies et puis c'était parti. Mais là, ils ont réussi en fait à vraiment trouver cet équilibre et à nous faire sentir aussi, comme tu le dis, une montée en puissance, bon, qui s'arrête malheureusement abruptement quand tu n'as plus rien à débloquer, mais sur toute la période pendant laquelle tu continues de débloquer des pouvoirs, tu continues de débloquer de nouvelles armes, ils ont réussi à nous faire ressentir cette montée en puissance et ce sentiment d'euphorie qui devient de plus en plus présent.
D'ailleurs, on en discutait avec Mac, je me souviens quand on y jouait, on disait que c'était un jeu qui est assez épuisant quand même parfois, tu sais, moi je sais que je l'ai pas fait sur des grosses sessions, c'était vraiment une heure et demie de jeu, mais au bout d'un moment, tu sais, tu dis ok, j'ai incarné le Doom Game pendant une heure et demie, je crois que c'est suffisamment pour moi, Hugo.
T'es allé à la salle, tu reviens.
C'est tellement ça, tu vois, je ne suis pas le Doom Guy dans la vraie vie, donc forcément une heure par-ci, une heure par-là, ça me va aussi bien, mais voilà, comme justement t'es constamment dans cette espèce d'euphorie, ça... parce que en fait, mine de rien, tu sais, on parle de flow et compagnie, mais c'est plein de micro-prises de décision en fait, c'est ça, c'est cette idée de se dire ok, à ce moment-là, ok, je poursuis lui, ensuite je me suis occupé de lui, ok, maintenant il y a la mancubu, je vais lui tourner autour, ensuite j'adopte mon comportement à cet autre type d'ennemi. Donc c'est plein de micro prises de décision en fait, très 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 rapide, et en plus bah, comme t'as plein de petits outils, parce qu'on a parlé des armes mais elles ont toutes des modes un petit peu différents, bah tu vas pouvoir un petit peu expérimenter et jouer un petit peu comme toi t'aimes jouer. Moi je sais que l'espèce de grenade paralysante là du fusil à plasma, c'est un truc que je m'en servais beaucoup parce que j'aimais bien comme ça stun et ensuite sortir le lance-roquette et envoyer la purée, et c'est vrai que bah, c'est toutes ces micro décisions que tu prends qui définissent ton playstyle, mais qui restent toujours en fait dans cette espèce de carcan de rapidité, de FPS fast-paced et de violence et d'appétit pour la destruction, quoi.
Et cet aspect artisanat, c'est finalement peut-être une des rares concessions aux jeux vidéo modernes vraiment purs et durs, parce que bah, on retrouve ces petits éléments de RPG et d'artisanat
qu'il y a dans tous les jeux vidéo,
tu vois, moi j'ai lancé Ghost Recon Breakpoint hier, honnêtement, de très loin, c'est difficile de le différencier de The Division ou de n'importe quel autre jeu qui reprend toujours ce truc-là. T'as des armes de couleur, tu peux mélanger, tu peux changer le fonctionnement de l'arme, etc. Là, dans Doom, ce qui était intéressant, c'est que bah, ça change vraiment, comme tu dis, le style de jeu. Tu vas vraiment faire fonctionner l'arme différemment, donc tu vas pouvoir un petit peu adapté pour si tu as besoin de temporiser un peu plus, comme tu le dis, tu vas avoir des armes qui vont te permettre justement d'avoir du contrôle de foule, et si tu veux au contraire te déplacer de plus en plus, bah tu vas avoir des armes qui vont te pousser encore plus dans cette idée là donc ça c'était pas mal. Je pense que c'est quelque chose qu'ils peuvent encore améliorer, parce que ça serait intéressant de voir si justement avec le Doom Eternal ils vont réussir à gérer plusieurs playstyles différents et pas juste cette espèce de frénésie qu'on ressent en permanence, pour que pas qu'on ait ce sentiment d'asphyxie, tu vois. Parce que moi c'est pareil, je sais pas s'il y a quelque, tu vois, faire le jeu d'une seule traite comme ça, je pense qu'à la fin t'es rincé, mais t'en veux plus quoi. Ça me paraît vraiment difficile.
Ouais, parce que en plus de pouvoir upgrader tes armes, tu peux aussi upgrader un peu certaines choses de ton Doomday, du style les glory kills vont un peu plus vite, ou quand tu fais un double saut et que tu t'accroches à une plateforme et que tu remontes, ça peut être un peu plus vite. T'as différents types de monnaie entre guillemets avec lesquelles tu vas acheter des améliorations, puis t'as aussi des défis. T'as des sortes de défis et après qui débloquent des trucs du style si tu fais 25 glory kills aériens, je sais plus trop, t'as une petite upgrade aussi qui se met, enfin t'as vraiment trois sources d'amélioration.
Il y a quand même effectivement des trucs assez maintenant communs dans le triple A, mais je pense qu'en fait ça raconte aussi une certaine chose de la culture jeu vidéo, qu'aujourd'hui, bah, si tu dépouilles, en fait, si tu ne mets pas ce genre de choses-là, bah, je pense qu'on peut être un peu frileux, tu vois, même un éditeur qui dit « Ah, vous êtes sûr qu'on n'augmente pas un petit peu la vie, que vous n'ayez pas ce sentiment de progression qui est justement apporté par le fait d'avoir plus d'armure, d'avoir ton shift de vie qui grossit, qui passe de 100 à 150, à 200 à 250, que tu aies l'impression justement que t'es une progression qui est très statistique, très artificielle, mais... Aujourd'hui, je pense qu'on a tellement été éduqués à avoir ces petites récompenses, parce que c'est quand même de la petite récompense, c'est des feedback loops positifs. On est hyper habitué à les avoir, et je pense que ouais, c'est difficile aujourd'hui de s'en passer, quoi. C'est pas pour rien qu'on les retrouve de partout, hein. Et même dans un jeu comme Doom, qu'on a pas besoin, entre guillemets, même si bon, pour survivre à des trucs...
C'est que ça serait pas suffisant, tu vois, ouais. En fait, on parlerait d'un core gameplay qui fonctionne, mais on te dirait bah, il manque quelque chose à ton jeu, tu vois, il lui manque ces petits trucs en plus qui font que, justement, les gens, ils vont y revenir, parce que, bah, il y a aussi cette idée-là de se dire, bah, qu'est-ce qu'on va faire, une fois que t'as fait... Parce que si le jeu, c'était pendant 10 heures la même arène que le début, mais juste avec des compos différentes et des armes différentes, ben... Forcément, ils ont peur que des joueurs se lassent entre temps et se disent bah, pourquoi je vais continuer. Alors que là, si tu peux améliorer ton arme, au bout d'un moment, tu sais que tu auras peut-être le BFG, tu sais que tu vas te bloquer tel truc, bah, ça te donne, comme tu le dis, une incentive. Hein. C'est vrai que cette mécanique-là, cet équilibre dans le game design, c'est quelque chose qui est toujours essentiel à maîtriser. C'est-à-dire que les gens, quand ils font leur jeu, il faut bien savoir que c'est pour ça que je vous disais tout à l'heure, j'incitais sur le fait qu'ils aient peur jusqu'à l'instant où le jeu il sort. Eux, ils savent pas si ça marche pour de vrai. Tu vois, ils font des playtests, ils ont des trucs, ils ont des retours. Mais ils n'ont pas vraiment le grand public, ils peuvent pas faire un test à grandeur nature.
Massif,
ouais, donc ils n'ont pas vraiment de certitude sur ce qu'ils sont en train de balancer. Donc pour se rassurer au maximum, ils vont rajouter ce genre de petites mécaniques parce qu'ils savent que ça fonctionne. En fait, c'est aussi simple que ça, tu vois. On en revient encore une fois à Diablo. Le Doom moderne, c'est ce truc-là. On retrouve avec ces petites feedback loops, comme tu dis là, ces petites boucles qui te donnent une petite récompense régulièrement parce qu'on sait que ça fonctionne et que ça donne envie aux joueurs de continuer tout le temps.
Te reste engagé, te garder.
Exactement. Ben oui, non, mais bien sûr.
C'est ça, hein.
Alors évidemment, dans une logique où après on a des jeux qui sont des jeux service, il faut que tu restes engagé parce que bah, sinon tu vas arrêter d'y jouer, tu vas plus avoir potentiellement envie de dépenser. C'est du blé. Là, dans Doom, il n'y a pas cette idée-là, parce qu'il n'y a pas de contenu qui est derrière un paywall ni quoi que ce soit, mais bah, on sent
comme c'est
que...
très effréné quand même, ce rythme très lourd, c'est vrai que c'est bien de rajouter encore d'autres petites choses auxquelles se raccrocher pour pouvoir avoir envie de continuer, quoi.
Mais ça va bien aussi avec ce fameux level design aussi labyrinthique, t'as beaucoup de récompenses d'exploration, et d'ailleurs, à la fin, il te rappelle toujours combien il y a de secrets, combien il y a de trucs, parce qu'il n'y a pas que des mécaniques de RPG en récompense, t'as aussi, tu t'en parlais tout à l'heure, t'as des salles qui ressemblent, tu sais, aux anciens Doom, qui sont vraiment en 2D, tu vois, intérieur, enfin entre guillemets en 2D, mais avec les vieilles textures en fait, vraiment vraiment old school, et plein de salles qui peuvent se débloquer, ou les fameux, je sais pas, t'as des cadavres de mecs de l'UAC, tu peux retirer des sortes de petites cartes micro SD, ou les non mais ça c'est les équipements d'armes, genre les petits robots parfois qui tu tamasses d'ailleurs,
oui,
on en revient un peu aux animations, il veut choper la case de munitions, le robot il résiste un peu, pouf, il lui fout une grosse patate, ça c'est toujours assez drôle, mais oui, ça s'intègre quand même beaucoup à la proposition, et comme on le disait, c'est un jeu qui est aussi un peu fatigant, surtout si t'enchaînes les arènes, ça te permet de respirer un petit peu entre chaque combat.
Sachant que cette idée de redonner le nombre de passages secrets, etc., c'est repris de Doom 1 et Doom 2, hein, parce qu'à la fin, en fait, à chaque fois, quand tu cliquais sur
un
levier qui te permettait de terminer le niveau, t'avais le petit niveau des scores, le petit tableau des scores qui te disait le temps, combien d'ennemis, tout ça, et qui te disait bah, il reste des secrets ou pas. Et entre les deux, d'ailleurs, je viens de m'en souvenir, il y avait un texte, hein. Il y avait du texte, en fait, sur Doom, t'avais une petite carte où tu voyais le personnage qui évoluait, avec un petit texte qui t'expliquait que bon, bah, c'était l'enfer. Mars et il y avait des démons, mais il se prenait pas plus la tête que ça, mais il s'était quand même embêté à écrire des trucs, tu vois, quand même.
Parce que je me souviens dans Quake aussi, à la fin de chaque niveau, il te disait le nombre de secrets que t'avais raté, mais je pense que t'avais zéro texte par contre, et pas de carte non plus. C'était beaucoup plus des niveaux.
T'avais un semblant d'histoire, mais c'est vrai que les FPS, tu vois, avec un peu d'histoire, Unreal, le tout premier, est arrivé, et quand c'est sorti, je crois que c'est sorti juste un an avant Half-Life, ça faisait partie de ces jeux qui lançaient justement cette tendance des FPS avec de la narration. Tu vois, il y avait des cinématiques dans le jeu avec le moteur du jeu où toi tu t'arrêtais de jouer pendant quelques secondes et un alien qui te parlait, et ça c'était finalement quelque chose de très nouveau, mais on en avait parlé tout à l'heure, mais c'était juste, je me souvenais que le tout premier Unreal faisait déjà un petit peu ça.
Et du coup, bah ouais, il y a Doom Eternal qui va sortir bah là dans
fin novembre.
Et c'est vrai que bah oui, on voit encore une fois qu'ils ont voulu pousser avec le mouvement, donc il va y avoir un dash apparemment.
Ouais.
On va pouvoir grimper.
Il
va aussi avoir cette espèce voilà de chaîne accrochée au fusil à pompe, au super shotgun là, pour pouvoir se rapprocher des ennemis. Je suis assez curieux de savoir si justement ils vont arriver à maintenir cet équilibre. Est-ce que ça va toujours être aussi dynamique, ça, je me fais pas trop de soucis. Mais je me demande si... En fait, c'est un jeu qui m'a tellement... je trouve que c'est une proposition qui est tellement particulière. Je me demande si j'ai vraiment envie encore de jouer à une version, tu sais, 1.5 de ça. Je suis pas certain, tu vois. Je suis pas impatient d'y jouer. C'est un jeu que j'ai beaucoup aimé, Doom, mais je suis pas impatient de jouer à Doom Eternal.
Je dirais pas non plus, tu vois, que je suis chaud pour les jeux de Day One, mais je suis plutôt confiant, tu vois, quand je... Et là, ils ont bien compris. Une des démos qu'ils faisaient, c'était un mec qui jouait sur scène, sur PC, ou sur scène, ou je sais plus, mais c'était un mec qui jouait vraiment au jeu, tu vois. Ils ont bien compris qu'il fallait qu'il joue un petit peu bourrin pour te montrer toutes les possibilités de mouvement. Ils ont aussi un truc intéressant qu'ils vont faire maintenant qu'ils ont compris que le jeu était basé sur le mouvement. Il y a plus de platforming aussi dans le jeu. Parce que le dash, il va te rapprocher un peu des ennemis, mais t'as des moments où t'as des murs un peu qui se mettent devant toi, tu peux t'accrocher à eux, ou t'as une espèce de cerceau à travers lesquels tu peux passer en dashant dans les airs. Ils vont exploiter un petit peu le mouvement pour faire autre chose du coup que simplement du combat. C'est toujours intéressant à voir. Mais ouais, comme je disais, je serais pas forcément en mode ouais, day one, c'est parti, mais je sais que si je veux de l'adrénaline, a priori, il y a moyen. Je pense que ce jeu, il pourra y répondre, quoi.
Et je trouve que c'est assez intéressant ce que vous dites, parce que bah, ça revient sur l'idée de pourquoi ça a disparu. C'est parce que quelque part, tu vois, aujourd'hui, dans cette espèce de boulimie de jeux vidéo dans laquelle on vit depuis des années, bah, une fois que tu as eu cette proposition-là, tu te dis, bah, c'est bon, je connais. Tu vois, si j'ai envie de rejouer à Doom, je vais rejouer à Doom. En fait, tu vas pas forcément chercher à jouer à la nouvelle version. C'est assez cool et je pense que ça va être très sympa et je pense que je le ferai avec beaucoup de plaisir comme vous deux, mais c'est vrai que j'ai pas une attente particulière parce que je me dis bah je sais ce que ça va proposer, maintenant j'ai compris, on peut qu'est-ce que vous allez nous faire d'autre. Le problème c'est que comme c'est une proposition qui est vraiment très basique, très viscérale, bah ils vont pas pouvoir faire grand chose de plus en réalité. Ils vont pouvoir effectivement jouer sur les objets, jouer sur les niveaux, jouer des trucs comme ça, mais il faut que ça garde cette recette là de base. Ils vont pas pouvoir d'un coup nous dire bon bah ça y est, on a une histoire qui est mieux que celle de The Last of Us 2.
Ça serait vraiment...
Ouais, y a pas Joël qui va arriver d'un coup en plein milieu de Doom, tu vois, ça fonctionne pas, quoi, ça marchera jamais.
Tu pensais que je te laisserais faire ça toute seule?
Mais non, mais du coup, éventuellement, ils pourraient renforcer l'univers, ils pourraient partir dans un délire avec des personnages un peu comiques, tu vois, comme l'ont fait Borderlands. Pour moi, ils sont dans une problématique un peu similaire.
Non, mais je pense qu'on va aller, ça va partir encore peut-être dans plus d'exubérance. Là, j'ai vu cette espèce d'image où, en fait, il y a une espèce de méga canon, mais qui fait, je sais pas, 25 mètres de taille, et tu vois un gros boulet qui va dedans, et tu sais, le Doomguy pousse le boulet, et il se met à la place du boulet pour que le canon le tire lui-même, quoi. Donc, effectivement, je pense qu'ils vont peut-être continuer à itérer sur cette espèce d'humour et aller toujours plus loin dans le délire de la destruction et compagnie, quoi.
Mais vraiment, non, mais juste le grappin, tu vois, la petite corde qui s'attache et tu vois, il se balance et ça t'envoie assez loin dans le monde. Ça, juste ça, quand je vois ça, je me dis, ouais, c'est quand même le petit truc qui peut être fun s'il est bien intégré. Ouais.
Oui, c'est ça, c'est que encore une fois, on va difficilement pouvoir juger juste sur des vidéos. Il faudra qu'on y joue pour vraiment ressentir le truc. Le coup du canon, j'avais même pas vu cette image-là, mais bon, alors en plus d'être une grosse référence à Monkey Island, ça montre qu'ils veulent assumer vraiment ce délire série B. Et je trouve ça intéressant parce que ça veut dire qu'on arrive peut-être à un stade de maturité du jeu vidéo qui est capable de se rendre compte de ses conneries, tu vois, des conneries qu'il est capable de faire et de s'en moquer, mais de manière un petit peu intelligente, pas de faire style, on fait un peu de second degré en se disant, regardez, en fait, on est un peu edgy.
Comme tu le disais, c'est qu'il y a le game design qui va avec, en fait, c'est-à-dire que tout le feeling d'aller vers l'avant, de se sentir cette espèce de boule de destruction massive, bah dans Doom, ça marche de rentrer dans le canon, tu te dis, oui, le Doom Guy, c'est un truc qui ferait effectivement, je suis plutôt chaud pour vivre
bah
ça.
Bah oui, tu sais, il se met en boule en mode Metroid et puis il part, tu vois, et hop, il fait un strike au milieu des démons,
non, c'est ça
passe.
Ça passe exactement.
Et ça va être au final un des seul triple A, je pense, à vraiment proposer ce genre d'expérience en FPS, parce que autant il va peut-être y avoir des gens plus communauté naufrague et tout qui vont dire ah mais vous avez pas parlé de tel jeu, si t'as mentionné Project Warlock par exemple, mais ça c'est des petits jeux, c'est vraiment je crois que c'est un mec tout seul, hein, Project Warlock.
Ouais, c'est ça, un gars tout seul qui a fait ça.
Et du coup il va pas avoir tous ses outils. Enfin là ils ont le budget, tu vois, id Software clairement ils ont tout un budget pour avoir tous ces éléments de game design qui peuvent vraiment converger vers cette émotion, et c'est un des seuls projets de cette envergure. En fait,
oui, c'est ça. Ils ont leur place, quoi. Vraiment, ils ont leur petit trou, ils ont leur petit créneau. Et tu sais que si tu veux aller vers ce genre de proposition, c'est vers chez eux qu'il faut aller. Et ça me fait penser, tu sais, Lucas Pope qui disait, bah voilà, si vous voulez être un mec qui fait passer des passeports, bah c'est là. Si vous voulez être le Doom Slayer, une petite boule de nerf destructrice, bah c'est vers chez nous qu'il faut passer, quoi. Et je pense que oui, ça va bien se passer pour eux parce que maintenant ils ont tous cette espèce de retour positif. En plus, c'est un jeu qui a réussi à continuer à se vendre et à continuer à faire parler de lui, et d'ailleurs bah, on en parle encore aujourd'hui, donc ouais, clairement je pense que ça va bien se passer pour eux avec ce Doom Eternal, surtout s'ils ont une optimisation qui tient encore la route.
Mais c'est vraiment tout le mal que je leur souhaite, parce que bah, c'est intéressant de voir que des formules qui étaient effectivement normalement mortes et enterrées, tu vois, personne s'imaginait que ça allait ressortir. Non seulement c'est toujours pertinent, mais en plus on peut y intégrer toutes ces nouvelles logiques de game design qu'on a aujourd'hui et qui fonctionnent très bien et qui donnent un jeu qui finalement, tu vois, si tu rejoues à Doom aujourd'hui, tu vas pas ressentir cette chose-là,
non,
tu vois.
Non.
Tu vas pas avoir ce côté push forward, etc., parce que c'est pas quelque chose qui était intégré. Oh. C'était un jeu, tu tirais, c'était rigolo, c'était très viscéral, etc., mais tu n'avais pas cette impulsion qui est faite par les règles du jeu de te pousser à aller vers l'avant, alors que là bah, c'est eux qui l'ont intégré et ça fonctionne finalement très très bien. Donc ils ont vraiment réussi, pour moi, tu vois, à moderniser la formule sans la trahir, et ça c'est quelque chose qui est tellement difficile à faire.
C'est une preuve de maturité, parce que tu le vois, en fait, id Software c'est quand même un vieux studio dans l'histoire du jeu vidéo, et je trouve ça quand même assez beau qu'ils arrivent à revenir et à faire quelque chose qui est pertinent en 2016 et qui va être pertinent, j'imagine, encore en 2019. Et c'est ça qui est fort. On a besoin de studios et de gens qui ont tous ce recul là. Tu sais, tu parlais de ce mec là, Kevin Clout là, qui disait, bah voilà, sur les premiers protos de Doom 4, il disait c'est pas ça Doom, tu vois. Et de gens qui ont tous ce recul, toute cette expérience. On sait que l'industrie du jeu vidéo c'est une grosse machine à laver qui épuise les gens et qui leur donne envie de dégager. Enfin, tu vois, même les premiers, enfin Carmack,
Romero, il fait toujours du jeu, mais
voilà,
c'est
pas la même
chose. Il a pas l'air de devant sortir un truc.
Oui, bon, et en même temps, il a fait Daikatana, donc maintenant, tu vois, je veux dire.
Il s'est calmé,
mais c'est très rare en fait, hein, les gens de cette génération qui sont toujours là, vraiment sur le front.
Pour l'anecdote, Kevin Cloud qui est là depuis Wolfenstein 3D. Hein.
Oui, voilà, donc c'est vraiment.
Oui, qui est sorti avant Doom. Hein,
Et
c'est là que tu vois, moi quand je vois Doom, je me dis c'est vraiment un bon cas d'école pour comprendre ce que c'est que le game design, comment ça marche, comment toutes ces règles en fait elles t'encouragent à jouer de telle manière pour proposer une expérience assez spécifique. Et je me dis, bah en fait, il y a besoin de gens qui ont cette maturité, qui ont cette expérience, parce que c'est ces gens-là qui. Enfin, les jeunes, ils peuvent apporter de nouvelles idées, des trucs hyper rafraîchissants, mais ces gens-là, ils ont une vraie compréhension aussi de leur code, de leur licence, et ça peut permettre de faire des projets qui sont vraiment aboutis, en fait, dans ce qu'ils veulent raconter, quoi.
Et ça te montre, je pense que, ouais, comme tu le dis, c'est vraiment intéressant de se pencher sur tout ce qui fait que Doom est Doom, parce que c'est un jeu, tu vois, extrêmement violent, qui était longtemps pointé du doigt, tu vois, un peu à côté de GTA, ouais. Je pense, tu peux avoir Doom, et quelques années après, c'est GTA qui a pris un peu le relais dans le jeu horrible, tu vois, qui rend la jeunesse violente. Et aussi, comme on disait, t'as l'écriture un peu série B, mais tout ça, c'est complètement réfléchi, en fait, ça a demandé beaucoup de réflexion, que ce soit dans une crise d'identité, pour, enfin, ne serait-ce que se poser la question, c'est quoi Doom, pourquoi ça marche, et qui on est, nous, id Software, et sur comment faire rentrer le joueur directement, comment écrire un univers et ou exposer des scènes très simplement, très directement pour qu'on rentre dedans. Bah c'est un vrai travail, tu vois, faire des jeux simplistes, c'est beaucoup d'efforts.
C'est vraiment le jeu typique que une personne qui ne connaît pas très bien le jeu vidéo va te dire, bah voilà, c'est ça que j'aime pas dans le jeu vidéo, c'est-à-dire vraiment tout ce que ça représente, tout ce qui est nul dans le jeu vidéo, d'ailleurs c'est bête, tu tires et tout. Et que quelqu'un qui, justement, quand on a un peu plus les codes et qu'on connaît un peu plus l'histoire et qu'on s'intéresse vraiment au processus de création du jeu, on se dit, en fait, non, c'est trop bien, c'est vraiment typiquement un jeu hyper intelligent dans ce qu'il veut faire, quoi. Donc c'est vrai qu'il porte ce lot-là, et je le trouve vraiment intéressant, ne serait-ce que pour ça, quoi.
Et je pense que c'est pour ça qu'il pousse justement le côté autodérision, parce que ça permet quand même d'avoir une communication qui, du coup, prend un peu de recul par rapport à ce qu'elle fait. Ils continuent de bien travailler leur mécanique, ils continuent de rendre leur univers un peu plus bourrin, un peu plus rigolo, et forcément, au bout d'un moment, le gore tourne vers l'absurde, hein, c'est la nature même du gore, mais enfin, l'absurde, on va dire, le côté un peu comique du truc, tellement c'est une surenchère.
Juste pour aller dans ton sens, je cite Hugo Martin, il dit, je pense que c'est grâce à ce ton un peu secondaire qu'on peut s'en tirer avec autant de violence.
Ouais,
mais bien sûr, parce que s'il se prenait un minimum au sérieux, il y avait un jeu là, il y a quelques temps, qui avait complètement bidé, mais qui essayait, vous savez, ça avait fait beaucoup de bruit, parce que c'était un FPS dans l'enfer. Non, là, il y avait Hitred, mais ça c'était autre chose. Non, c'était vraiment un FPS, avec des démons, c'était vraiment en enfer, j'ai oublié le nom de ce jeu là. Et lui, il se prenait très au sérieux. Bon, le jeu, il était pas bien.
C'était pas truc anti-féministe en plus.
Ouais, c'était pas bien du tout.
Ça avait fait
énormément couler d'encre, parce que eux, ils se prenaient très au sérieux. Finalement, Doom, même à l'époque, ne se prenait pas au sérieux. Mmh. Et ça, c'est quelque chose
qui était irrévérencieux, mais bien sûr, le métal l'est, quoi.
Enfin, tu sais, Masters of Doom, le bouquin, ça raconte Carmack et Romero qui font du skateboard, tu vois, dans les années 80, et ils font des parties de Donjons et Dragons, et après ils disent, oh, on va faire Doom et on va écouter du métal. Ouais,
des mecs qui s'éclatent, quoi.
C'était des jeunes lycéens, jeunes étudiants, ils se sont dit, on va faire un jeu, et et ils ont transformé le jeu vidéo.
C'est des quinquas qui
s'éclatent. Ouais, c'est ça. Et là, ils s'éclatent. Alors, c'est plus eux qui font le jeu.
Ils ont les papiers rockers.
C'est un peu les papiers rockers. Mais ce que tu disais, c'est très intéressant parce que ça montre qu'il faut vraiment qu'on prenne soin, en fait, de ces vétérans-là. Parce que les seniors dans le jeu vidéo, aujourd'hui, c'est des gens qui ont 30 ans, tu vois. Gens qui ont 30, 35 ans et on les considère comme seniors. Alors, t'es là, ben oui, mais dans une autre, dans, tu vois, dans plein d'autres domaines, c'est des gens qui ont 50, 60 ans. Et les connaissances qu'ils ont, les gens qui ont une certaine maturité, c'est quelque chose qu'il faut pas perdre. Donc, bah voilà, c'est pour ça, je pense que c'est intéressant de se battre pour justement les conditions de travail des devs, etc., pour s'assurer qu'on les presse pas comme des citrons et qu'ils se barrent.
Qu'on profite de tout ce savoir et qu'on ait des jeux qui soient justement.
Parce que derrière, tout le monde y gagnera en réalité. Hein, c'est ça, on fera des meilleurs jeux, on aura des jeux qui auront du coup un recul énorme sur le passé, sur l'histoire. Parce que si tu fais faire des jeux que par des gens qui ont 18 à 22 ans, ben c'est pas qu'ils ont pas le recul et que c'est pas bien, tu vois. Je dis pas que c'est pas pertinent, mais c'est bien de mélanger les choses, tu vois. C'est vraiment important pour moi d'avoir comme ça des gens qui ont connu d'autres choses, qui permettent d'avoir des processus, des astuces, des codes, des trucs. Peut-être, tu vois, qu'il y a des tonnes d'anecdotes, j'ai plus le bouquin en tête, de bah, pourquoi tel truc fonctionnait comme ça. C'était peut-être une astuce d'un problème qu'ils avaient de code et ça a donné un truc marrant et c'est devenu ça. Et c'est peut-être quelque chose, tu vois, qui est ultra important. Je reviens sur l'histoire de Diablo parce que je me rends compte que les deux jeux, finalement, ont beaucoup de similitudes. Le fait que le jeu soit passé en temps réel, c'était presque un accident parce que le gars en lui-même, il voulait pas faire ça. C'est les autres qui lui ont dit, mais si, tu vas voir, en temps réel, ça va être sympa. Et au final, quand il l'a fait, il s'est dit, ah, putain, ça détruit tout. Et au final, bah, c'est devenu Diablo, tu vois. Mais c'était pas du tout leur esprit. Au départ, ça devait ressembler à XCOM, quoi.
Bah écoutez, je crois qu'on a fait le tour, il me semble, sur ce Doom. C'est un jeu, évidemment, qui plaît pas forcément à tout le monde, parce que, bah, malgré tout cette surcharge d'adrénaline que tu prends quand il joue, ça plaît pas à tout le monde. Mais voilà, je trouve que c'est quand même un jeu important, même pour l'histoire du FPS et même du jeu vidéo en général, pour ce qu'il a pu apporter en 2016. Donc,
Et surtout, tu l'as dit, c'est un jeu cas d'école. C'est-à-dire que si vous vous intéressez au game design, le jeu vidéo, c'est un truc qui vous passionne au-delà du simple fait de passer le temps, et que vous essayez de comprendre ce que c'est, comment ça fonctionne, comment ça nous fait communiquer des choses, comment ça transmet des informations et des émotions, Doom, c'est un jeu qui est parfait pour ça. Vous n'avez pas besoin de le finir, c'est-à-dire que vous y jouez quelques heures, vous allez vraiment découvrir un tas de choses qui sont très bonnes à prendre pour vous si jamais vous voulez vous lancer dans la création.
Et surtout, id Software a été extrêmement transparent sur toute leur démarche. Ils ont beaucoup communiqué, il y a beaucoup de conférences. Et c'est ça qui est génial, ça fait vraiment plaisir à voir des gens que, bah voilà, ils ont sorti leur bébé, ils ont fait leur truc, et en plus, bah du coup, ils en parlent, ils disent qu'est-ce qu'ils ont essayé de faire, comment ça a pu marcher, qu'est-ce que ça a été leur problème. Et c'est pour ça que je pense que j'ai autant de sympathie pour le jeu, c'est aussi parce qu'ils ont pris le temps de raconter toute sa genèse, toute sa création et tout ce qu'ils ont eu envie de faire avec, quoi.
Et ça permet de remettre vraiment le vrai processus créatif, j'ai envie de dire, au cœur du truc, parce que encore une fois, c'était des gens qui ont fait un truc, ils ne savaient pas si ça allait marcher, et ils ont tenté des choses en étant, en fait, tu te jettes dans le vide, hein, quand tu prends des décisions, tu peux aller dans plein de directions différentes quand tu fais un jeu vidéo, et le résultat, ça paraît toujours, bah oui, c'est évident, pourquoi ils ont pas fait comme ça, mais quand t'es dans leur botte et que t'as des centaines de gens dont le métier dépend de ta propre décision, etc., bah j'imagine que ça doit être extrêmement stressant. Donc là, forcément, derrière, tu sentais le soulagement, enfin, toutes les confs GDC, etc., tu sens qu'ils sont tellement contents parce que bah ils ont eu la bonne idée, ça a fonctionné et c'est cool pour eux. Mais c'est pas souvent le cas, donc bah il faut vraiment encourager ce genre d'effort là parce que comme je le disais il y a très longtemps maintenant, le nombre de jeux qui ont essayé de faire le même exercice, c'est-à-dire ramener des choses du passé et de les moderniser et qui se sont gaufrés méchamment, il y en a à l'appel, et Doom c'est peut-être le meilleur exemple de qu'est-ce qu'on peut faire pour comprendre, sortir vraiment, extraire, tu vois, l'essence, l'huile essentielle de Doom d'un jeu des années 90 et en faire un truc moderne sans que ça soit ridicule, sans que ça soit bouffe et sans que ça soit vulgaire.
Et je me rends compte qu'on n'a pas parlé de la musique et de Mick Gordon, mais il y a une conférence GDC.
Oui, c'est vrai qu'on n'a pas parlé de la musique.
On vous en enverra, parce que ça aussi, c'est quelque chose de moderne qui a vraiment été, voilà, entre tradition et modernité, n'est-ce pas? Mais on postera le lien sur le Discord, hein, on sera l'occasion d'en parler, parce que là.
On postera la musique, on a bien étalé la confiture, encore une fois. Ouais.
Rejoignez-nous sur le Discord. Merci de nous avoir écoutés. On remercie une nouvelle fois Peur d'édition pour le sponsoring. On remercie bien sûr tous les gens qui nous donnent des sous. Donnez des sous. À fin du game, allez sur Patreon, vous nous rejoignez sur notre page. On a vraiment besoin de vous pour faire fonctionner l'émission. Donc voilà, hop, un petit café, un petit croissant, un petit sandwich. Si vous êtes sur Paris, bah un petit café, mais c'est 5$, donc ce sera très bien.
Oui, c'est ça, ouais, c'est des cafés strasbourgeois.
Voilà, c'est des cafés strasbourgeois. Exactement. Donc voilà, merci de nous avoir écoutés. Et puis bah, on se retrouve dans 2 semaines pour un nouvel épisode de Fin du Game.
Salut.
Ciao.